Vous êtes sur RTL.
Allez, belle matinée.
Bonne journée, merci à toute l'équipe des petits matins, Dominique Tenza. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Alerte rouge, vous l'avez compris. Les carburants en général et l'essence en particulier sont en train de battre des records de hausse. Et nous allons vous proposer donc une matinale spéciale carburant intitulée « Record de prix, jusqu'où la facture peut-elle monter ?» Nous répondrons à toutes vos questions, je m'y engage, et ce en plusieurs étapes. Ne ratez pas les astuces et même les bons trucs de notre spécialiste Christophe Bourou dans le journal de 8h. Dès 7h20, nous prendrons une première photo en région bordelaise où, comme ailleurs, le prix des carburants flambe. Mais avec quel effet sur notre vie quotidienne? Les explications de notre correspondant Philippe de Maria. À 8h20, là aussi un débat incontournable. Cette hausse est-elle inévitable et surtout incontrôlable? Autrement dit, sommes-nous confrontés à un bouleversement qui n'aura pas de retour en arrière? Nous débattrons avec la porte-parole de la Ligue de défense des conducteurs, Alexandra Legendre, et le député écologiste Mathieu Orphelin. Voilà pour notre vie quotidienne et les préoccupations que nous partageons absolument tous, même quand nous n'avons pas de voiture. L'autre grand débat, eh bien, nous l'aurons à 8h35. France 2022, les grands débats de la présidentielle. L'Europe est-elle une chance ou un boulet pour la France? Est-ce qu'elle nous apporte plus qu'elle ne nous coûte? La France peut-elle exister face à la Chine, aux États-Unis sans l'Europe? Nous reviendrons sur cette drôle d'invention avec les spécialistes de la rédaction. Du carburant à l'Europe, c'est bien votre vie quotidienne et notre avenir dont il sera question ce matin sur RTL. Nous sommes le mercredi 19 janvier 2022. Excellent de journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
1,62€ le litre de diesel en moyenne. La hausse des prix du carburant plombe notamment le budget des transporteurs.
Matinale spéciale sur RTL. Illustration dès le début de ce journal dans une entreprise familiale en Indre-et-Loire. Les autres titres de l'actualité. Le coup de colère d'Emmanuel Macron contre Jean-Michel Blanquer et ses vacances à Ibiza qui viennent parasiter son discours pour l'Europe. Une augmentation de salaire, vous en rêvez, c'est pour bientôt, au moins dans le secteur de la restauration. Et puis le fléau de la pollution du numérique, les ordinateurs, les smartphones, la vidéo sur Internet polluent quasiment deux fois plus que les avions.
La politique, Olivier Bost.
Une question ce matin, Valérie Pécresse, c'est qui?
Ah, réponse dès la fin du journal, enfin on l'espère.
RTL Matin.
Le prix du carburant n'a jamais été aussi élevé en France et ça n'est pas prêt de s'arrêter. Hein. Le baril de pétrole a atteint un nouveau record hier à 88 $. Promesse d'une nouvelle flambée à la pompe dans les prochains jours. L'essence et le diesel qui viennent chaque jour un peu plus grignoter le budget des Français. Les plus impactés sont les professionnels du transport. Exemple dans cette entreprise familiale qui emploie 21 salariés à Parcémélet en Indre-et-Loire. Christian Panvert.
Oui, la flambée des carburants est devenue un sacré casse-tête pour le responsable d'exploitation chez Touraine Transport. Bruno Loira gère une flotte de 17 poids lourds qui achemine tous les jours du béton, de la ferraille, du bois ou encore des bungalows. Les chauffeurs font le plein dans des stations dédiées aux professionnels à 1,55€ le litre de gasoil.
Si je prends une base 2021, aujourd'hui, pour le même nombre de kilomètres, cela nous revient à 10 000€ de coûts supplémentaires par mois.
Alors forcément, ça rend les relations commerciales plus compliquées.
Il y a un mécanisme légal qui existe, qui s'appelle l'indexation gasoil. On essaie au quotidien de répercuter cette hausse à notre clientèle. Tous les clients n'acceptent pas de telle hausse.
Autre effet collatéral, selon le gérant Cyril Gariou, la société ne peut augmenter ses chauffeurs.
Nos conducteurs, ils vont partir sur d'autres métiers plus valorisants pour eux. Il faut savoir qu'ils font 200 heures pour avoir à peine 2 000€. Moi, je me mets à leur place aussi. Et je ne devrais pas dire ça parce que je suis quand même gérant de l'entreprise. Il ne faut pas qu'ils viennent me sauter dessus pour une augmentation parce que je ne pourrais pas la donner.
Il craint qu'à terme, les entreprises de transport manquent de personnel.
Le reportage de Christian Panvert pour RTL.
On va donc continuer de s'intéresser à cette hausse des prix du carburant toute la matinée sur RTL, matinale spéciale. Dans un quart d'heure, RTL événement avec des automobilistes et des premières solutions pour tenter de faire des économies, c'est promis. Déjà une bonne nouvelle en vue pour le portefeuille des salariés de l'hôtellerie-restauration.
Leurs représentants ont obtenu un accord pour revaloriser la grille des salaires et il était temps, hein, de nombreux cafés et restaurants ont du mal à trouver de la main-d'œuvre, conséquence de la crise sanitaire, Pierre Herbulot.
Au restaurant, la carotte, c'est un légume. C'est désormais aussi le bulletin de salaire.
Moi, j'ai un collaborateur qui a 3 ans de maison. Voilà, j'ai décidé de lui donner 15% de plus.
Pour lutter contre la crise des vocations, Pascal Mousset, patron de 3 établissements à Paris, multiplie les augmentations depuis l'automne.
C'est un exemple, mais des collaborateurs qui ont eu ces niveaux d'augmentation, il y en a une bonne dizaine. Hein. Puis on voyait bien le climat ambiant. On avait beaucoup de mal à trouver des professionnels sur le marché du travail. C'était une façon de passer un message, de dire, voyez, je reconnais les efforts que vous faites dans mon entreprise, je ne vous oublie pas.
Et donc sous-entendu, restez chez nous. Antonella dresse les tables pour le prochain service. Elle fait partie des élus. Le salaire de cette chef de rang a bondi de 11%.
Je suis passée de 1800 à 2000. C'est un métier déjà difficile. Il faut aimer à faire ça parce que les horaires qui nous donnent la restauration, ce n'est pas tout à fait des horaires que tous les gens peuvent les accepter. Ça me donne la force de continuer d'avancer et de grandir.
Elle se rêve maintenant assistante maître d'hôtel. En salle comme en cuisine, les échelons peuvent être franchis très rapidement. C'est d'ailleurs l'autre argument du patron pour attirer les jeunes.
Les explications de Pierre Herbulot pour RTL. Hier soir, le Premier ministre a annoncé des nouvelles mesures de soutien au secteur de la restauration, de l'hôtellerie, de l'événementiel et des agences de voyage. Aide exceptionnelle correspondant à 20% du montant de la masse salariale brute pour ces entreprises, celles qui ont perdu au moins 30% de chiffre d'affaires en décembre et en janvier.
Dans l'actualité également ce matin, les vacances de M. Blanquer qui sèment le désordre dans la pré-campagne d'Emmanuel Macron.
Le ministre de l'Éducation nationale a regretté hier soir la polémique autour de son séjour à Ibiza début janvier. Juste avant la rentrée scolaire. Si c'était à refaire, je choisirais un autre lieu, concède Jean-Michel Blanquer, même s'il estime que sur le fond, ça n'aurait rien changé. Vincent Derosier, cette séquence n'a pas plu du tout à Emmanuel Macron.
Oui, et le président est furieux. C'est un ministre qui nous l'a confirmé. Un ministre furieux lui aussi contre son collègue de l'éducation. Ça fait bordel, désinvolture et déconnexion, peste-t-il. C'est un problème pour nous tous. Il faut dire qu'en quelques heures, les vacances à la plage du ministre de l'Éducation ont tout emporté sur leur passage, y compris le grand moment européen du chef de l'État. Ce 19 janvier, une date cochée par le président depuis des mois, une semaine que l'Élysée voulait entièrement consacrer au débat européen afin qu'Emmanuel Macron apparaisse en majesté cet après-midi à Strasbourg. Mais voilà, Blanquer a gâché toute la séquence, enrage un cadre de l'exécutif. Alors au sommet de l'État, on se rassure comme on peut en espérant que la polémique s'éteindra avec les excuses du ministre. D'ailleurs, selon nos informations, Jean-Michel Blanquer a été obligé de les présenter. Matignon lui a tordu le bras pour qu'il fasse ce mea culpa à l'Assemblée, puis hier soir aux 20h de TF1.
Les explications signées Vincent Derosier du service politique de RTL. De nombreux syndicats d'enseignants appellent à faire grève ce jeudi pour dénoncer la gestion de la crise sanitaire dans les établissements scolaires. Manifestation prévue notamment à Paris, mais le rassemblement a été interdit par la préfecture de police. En fait, les syndicats s'y sont pris trop tard. La demande a été faite hors délai.
Dans un instant, une lueur d'espoir dans les hôpitaux qui commence à reprogrammer les opérations qui avaient dû être reportées à cause du Covid. Merci d'écouter RTL, il est 7h06. On se retrouve dans un instant.
RTL Matin.
7h07, la suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan sur RTL. Le pic de la cinquième vague, finalement, c'est peut-être pas pour tout de suite. Nouveau record de contamination hier.
464 000 cas en 24 heures. Alors, ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'on est au-dessus des 300 000 cas par jour en moyenne depuis une semaine. Et pourtant, la pression commence à redescendre dans certains hôpitaux, sans doute parce que le variant Omicron est plus contagieux, mais moins dangereux que les autres. En tout cas, c'est une hypothèse. À l'hôpital de Metz, Dimitri Ramelot, on tente de profiter de cette accalmie pour rattraper le retard accumulé à cause des opérations déprogrammées.
Oui, dans les étages de l'hôpital, les secrétariats médicaux des différents services scrutent la moindre baisse de tension en unité Covid et quasi instantanément, des patients qui attendent parfois depuis des mois de se faire opérer reçoivent un appel. Marie-Odile Saillard, directrice du CHR.
Dès qu'il y a un petit bout de quelque chose qui se libère, j'ai 10 chirurgiens qui lèvent la main en disant « et moi, et moi, et moi, et moi ». Et la difficulté, là où on aurait peut-être pu trouver un peu de place pour opérer quelqu'un qu'on aurait rappelé, les urgences vont vous amener quelqu'un d'autre sur lequel il va falloir intervenir tout de suite.
Et parmi les pathologies prioritaires, cardiologie, cancérologie, les ongles incarnés attendront encore que l'ensemble des plateaux techniques soient opérationnels, comme l'explique Antoine Becré, anesthésiste et membre du conseil du bloc opératoire.
Si on était en fonctionnement maximal, on pourrait faire 16 salles d'intervention et là actuellement on peut en ouvrir 11. Avec 12 infirmières à temps plein de plus, oui on peut ouvrir les 5 salles de bloc opératoire. Le but n'est pas de faire toujours plus, parce qu'en faisant ça, on va épuiser notre personnel. Je pense que c'est effectivement un équilibre à trouver.
Et sans cette pénurie de main-d'œuvre, dans un hôpital où près de 100 personnels soignants manquent à l'appel, l'ensemble des blocs pourrait tourner jusqu'à 130% de leur capacité pour rattraper le retard.
Dimitri Ramelot à l'hôpital de Metz pour RTL.
À l'étranger, en Allemagne, le début d'un procès d'un ancien chirurgien syrien accusé de crimes contre l'humanité.
Soupçonné d'avoir torturé, mutilé, tué des gens entre 2011 et 2012 durant la guerre civile à Homs et à Damas, des faits qui remontent à avant son arrivée en Allemagne en 2015, Léo Brauer-Potier.
Karl passe sur son vélo devant les murs du tribunal supérieur de Francfort.
Il était médecin, je crois. Quelle cochonnerie, c'est pas croyable.
C'est à l'intérieur de ces murs que sera jugé Alaa M.
entré en Allemagne en 2015 avec un visa de travail. Cet orthopédiste de profession s'était créé une nouvelle vie en travaillant dans les cures thermales avant d'être arrêté à l'été 2020. Il est soupçonné d'avoir torturé 18 personnes entre 2011 et 2012 en Syrie. Gundula Fensbauer est juge au tribunal de Francfort.
Dans un cas en particulier, l'accusé aurait injecté un produit qui a amené un détenu à la mort. Dans deux autres, il lui est reproché d'avoir mutilé sexuellement les détenus.
Cinq juges seront chargés d'animer les débats et d'administrer la procédure regroupée dans 54 gros classeurs. C'est la première fois que le tribunal de Francfort va se pencher sur les crimes du régime de Bachar al-Assad commis il y a plus de 10 ans.
Léo Brouwer-Potier, envoyé spécial à Francfort pour RTL. Quatre soldats français blessés au Burkina Faso. Leur véhicule a roulé sur une mine artisanale dans le nord du pays alors qu'ils participaient à une mission de reconnaissance. Ils ont été immédiatement transférés vers Gao, au Mali, afin d'être soignés.
C'est une pollution beaucoup moins visible qu'un gaz d'échappement ou que la fumée de cheminée d'une usine. Pourtant, nos ordinateurs et nos smartphones sont responsables des gaz à effet de serre.
Le ministère de la Transition écologique et l'ADEME lancent aujourd'hui une campagne d'information sur les impacts du numérique. Il représente 4% des émissions de CO2 dans l'atmosphère, un chiffre qui pourrait doubler d'ici 3 ans. En comparaison, l'aviation, ça représente seulement 2,5% des émissions de CO2. Alors pour tenter de réduire leur empreinte carbone, une jeune start-up propose aux entreprises de les aider, Sophie Jousselin.
Oui, en quelques semaines, le parc informatique de Sud-Express a émis autant de CO2 qu'une voiture qui aurait parcouru 1000 km. Benjamin Belaïch, le directeur général, se fixe un objectif.
Si on arrive à réduire d'un tiers nos émissions, on est ravis.
Pour y arriver, il compte sur Greenmetrics et son logiciel. Il évalue en continu la consommation du parc informatique et s'il faut ou non renouveler le matériel. Car ce qui pèse le plus dans l'empreinte carbone du numérique, c'est la fabrication des machines. Nicolas Mouret, le PDG de la start-up.
Si vous avez un indicateur de durabilité qui est de 5 ans et que vous êtes déjà à 6 ans, bah oui, là on va quand même vous dire qu'il serait peut-être bon de changer, de repasser sur un matériel reconditionné mais beaucoup plus récent.
Parce que si un portable vieillit,
la machine peut être plus consommatrice quand vos niveaux de batterie diminuent et vous êtes obligé de recharger plus souvent.
Les ordinateurs de Sud-Express ont plus de 4 ans. Benjamin Belaïch va donc les renouveler.
On est en train de regarder 2-3 acteurs du reconditionné et on va arrêter d'acheter du neuf. À quoi bon ?
Et l'entreprise continuera les bonnes pratiques.
On a réduit la vidéo de nos échanges. On passe plus uniquement en audio.
D'ailleurs, chez Sud-Express, la visio ne représente que 0,08% des émissions de CO2 contre 6% pour la bureautique.
Sophie Jousselin pour RTL. Allez, un mot de football. Hier soir, la Coupe d'Afrique des Nations et notamment l'exploit des Comores face au Ghana, 3 buts à 2. De leur côté, le Gabon et le Maroc ont fait match nul de partout.
Bon, on va terminer ce journal avec les courses qui ont lieu aujourd'hui à Cagnes-sur-Mer, Alexandre.
Voici les pronostics signés Dominique Cordier pour le Quintet. Le 13, 3, 7, 16, 8, 9 et 11. La dernière minute, c'est le numéro 3, Dr Carl.
On ne se lassera jamais du nom des chevaux. C'était le journal d'Alexandre de Saint-Aignan. Il est 7h12. Tout de suite, la politique avec vous, Olivier Bost. Bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Olivier, vous vous demandez ce matin qui est vraiment Valérie Pécresse.
Oui, Valérie Pécresse se définit beaucoup par rapport à des figures tutélaires. Mmh. Jacques Chirac, bien sûr, Nicolas Sarkozy, dont elle a ressorti le Karcher, Charles Pasqua aussi pour la sécurité. Valérie Pécresse a aussi dressé son portrait avec ce dosage, un tiers de Thatcher, deux tiers de Merkel. Valérie Pécresse se définit seulement en empruntant l'image des autres, comme si sa propre image, sa propre personnalité, n'était pas suffisamment puissante. D'où cette question, Valérie Pécresse, c'est qui ? Le souci, comme le résume méchamment un ministre d'Emmanuel Macron, c'est qu'on ne va pas élire l'album Panini de la droite.
Alors, on voit bien l'image, avec les autocollants de toutes ces personnalités. Donc, la difficulté de Valérie Pécresse, nous dites-vous, c'est d'être Valérie Pécresse ?
Oui, ce que ses proches dans la campagne expriment aussi, il faudra qu'elle fasse un grand discours sur elle, dit l'un de ses stratèges. Aujourd'hui, elle a encore du mal à se livrer, à dire qui elle est. Elle est pudique, elle a une carapace, ajoute ce même proche. Les Français, interrogés par l'Institut Elab, la connaissent un peu. Ils la jugent courageuse, dynamique, compétente, mais, et c'est là que ça fait mal pour la candidate des Républicains, peu présidentiable.
Alors expliquez-nous, pourquoi cette perception ?
Alors parmi les raisons, Valérie Pécresse n'a pas encore une idée qui la résume et qui résume sa candidature à l'élection présidentielle. Elle n'est pas identifiée dans les faits politiquement. Son passé de ministre et son poste actuel de présidente de la région Île-de-France ne suffisent pas. La faute à cette position aussi pas facile à tenir entre Emmanuel Macron pour l'Europe et le libéralisme et à sa droite Éric Zemmour et Marine Le Pen pour la fermeté et l'identité française. Elle doit encore naviguer entre les deux pour tenir sa famille politique et son électorat. Hier soir sur BFM, Valérie Pécresse n'a pas pris de risque. Elle s'est montrée même plutôt à l'aise, bien plus à l'aise face à des Français que lors d'interviews classiques. Oui. Elle a affirmé son féminisme face au meneur Jean-Jacques Bourdin, visé par une enquête pour agression sexuelle. Valérie Pécresse a ensuite fait dans l'anti-arrogance, en reconnaissant plusieurs fois qu'elle n'avait pas de réponse à certaines situations. Et elle a avancé une nouvelle proposition, la possibilité pour les salariés de convertir leur RTT en salaire, sans limite et sans charge patronale. C'est la version 2022 du « travailler plus pour gagner plus ».
Bon, alors ça fait une première mesure identifiable, non ?
Oui, mais ce n'est pas révolutionnaire quand même. Non. Pour se rassurer, un député LR qui ne l'a pas soutenu à la primaire se dit que Valérie Pécresse, dans toutes les campagnes, c'est un diesel. Dans la primaire, à la première réunion dans sa circonscription, la salle s'était endormie. À la seconde réunion, elle avait intéressé. Et puis à la troisième, Valérie Pécresse a retourné la salle. Dans la présidentielle, elle en est encore très très loin.
J'ai bien compris que le diesel devait mettre le turbo. Merci beaucoup Olivier Bost. Notre dossier spécial présidentiel est disponible sur l'application RTL. Et à 7h40, c'est donc aujourd'hui Adrien Quatennens, coordinateur de la France Insoumise et député du Nord, qui sera l'invité d'Alba Ventura.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h15, mieux protéger nos enfants face aux écrans. Voilà l'objectif d'une proposition de loi examinée depuis hier à l'Assemblée nationale. Et c'est le choix de notre brigade RTL ce matin. Bonjour Sébastien Rouxel.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Ce texte entend démocratiser le contrôle parental. Objectif, éviter évidemment que les enfants tombent sur des contenus inappropriés, mais aussi contrôler leur consommation d'écran qui a bondi ces derniers mois, Sébastien.
Et pour m'en rendre compte, je suis allé devant un collège. Une fois passé les grilles noires, la plupart des élèves ont le même réflexe.
Je dois regarder mon téléphone si j'ai des notifications.
Tous ici passent plusieurs heures chaque jour sur leur smartphone.
Vendredi 7h20, samedi 7h20 encore, et dimanche 11h30.
Tu passes ta vie sur ton téléphone, quoi.
Exactement. Je parle à mes amis, j'écoute de la musique, je suis au téléphone.
Je peux regarder TikTok, comme YouTube, ou jouer sur la PS4. Moi, je peux jouer autant que je veux.
T'as l'impression d'être un peu addict ou pas ?
Oui, totalement.
L'addiction, Cécile fait le même constat pour son ado de 15 ans.
C'est comme un fumeur de joint, en fait. Il n'est intéressé par rien d'autre. Je ne le vois presque pas, en fait.
Et ce qui l'inquiète le plus, ce sont ses résultats scolaires en chute libre depuis qu'il passe son temps sur les jeux vidéo.
Et ce temps passé sur les écrans, Sébastien, il n'a fait qu'augmenter chez les enfants, notamment avec les différents confinements.
Absolument, pour certaines catégories d'âge, là où l'on était à 3-4 heures par jour, on est désormais à 6 heures en moyenne, selon les chiffres de l'UNAF, l'Union Nationale des Associations Familiales. La faute aux mauvaises habitudes prises pendant le confinement, m'explique Alexandre, papa de deux filles.
Avant le confinement, y avait quand même des règles strictes, c'est-à-dire pas plus de 2 heures par week-end, mais avec le confinement de 2020... Il a bien fallu les occuper, et c'est vrai que c'est dur de les faire revenir en arrière.
Alors Alexandre a finalement opté pour le contrôle parental afin de limiter leur consommation d'écran, mais cette solution, trop peu de parents y ont recours, moins d'un sur deux en fait. C'est pour cette raison que le projet de loi veut faciliter son utilisation. Il serait installé par défaut sur tous les appareils. Au moment de leur mise en service, eh bien, on vous proposerait de l'utiliser ou non. C'est plus simple et ça peut convaincre de nombreux parents, explique Olivier Gérard de l'UNAF.
Lorsqu'on regardait les raisons et les motivations à ne pas utiliser les outils de contrôle parental, on s'apercevait qu'il y avait quand même des raisons qui étaient liées à la méconnaissance des outils, à la complexité aussi. Le projet de loi va dans le sens d'une activation un peu plus importante.
Pourtant, parmi les parents que j'ai interrogés, beaucoup encore me disent que le contrôle parental, eh bien, ce n'est pas la solution. Selon eux, les enfants se débrouilleront toujours pour contourner le règlement.
Merci beaucoup Sébastien Rouxel et nous continuerons à suivre l'étude de cette proposition de loi à l'Assemblée nationale avec vous puisqu'il s'agit tout simplement de l'avenir de nos enfants. Dans un instant, suite de notre matinale spéciale, record de prix des carburants, jusqu'où la facture va-t-elle monter ? Eh bien nous allons retrouver Philippe de Maria à Bordeaux aux côtés d'automobilistes inquiets par cette montée des prix qui semble inarrêtable. A tout de suite sur RTL.
RTL événement.
Il est 7h20, on poursuit notre matinade spéciale. Record des prix des carburants, jusqu'où la facture va-t-elle monter ? La hausse est vertigineuse hein, depuis le début de l'année. Vous le constatez à la pompe, plus 24% sur un an. Le sans-plomb 95 passe la barre des 1,70€. Le diesel est à plus d'1,60€. Tous les records en fait sont battus. Philippe de Maria, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Vous êtes allé à la rencontre de Français dans les stations-service de Bordeaux et les alentours.
Oui, et débutons par le plus spectaculaire, les professionnels qui font le plein de leurs utilitaires. Eric est carreleur, la note est salée pour son entreprise.
Ouais, c'est vrai que le prix, ça, regarde, c'est 130€ le plein, là, ça fait quelque chose.
Il y a 78 litres, c'est ça ?
Ouais, bon, là, j'étais sur la réserve, là, donc c'est un gros plein.
Alors il faut bien trouver des solutions.
Mais essayer d'optimiser les trajets au maximum, quand on doit aller sur deux chantiers ou trois dans la journée, partir au plus loin, faire en revenant, essayer de, les trajets inutiles quoi. C'est de les éviter.
Ouais, et ça c'est facile ?
Ah, c'est très compliqué, il y a toujours des imprévus, donc on doit souvent partir à droite, à gauche. Donc ouais, c'est compliqué, ouais.
Du plus gros véhicule au plus petit, Aimé roule à scooter. Il est ouvrier dans une usine de tri. 30 minutes de route chaque matin.
Mon budget, c'est à monter encore. Là, mon budget, avant, je fais 15, 5, 6 euros. Plus le moment, ça monte à 15 euros. Jusqu'à la fin du mois, ça me coûte beaucoup, presque 45 euros par mois. C'est important. Donc voilà, ça me coûte un peu dans mon budget de gérance de la maison. Mais je fais avec. Non, je n'ai pas le choix. Je suis obligé de mettre pour aller en travail. Le travail, c'est important. Sans travail, tu n'as rien fait dans la vie. Comment tu vas manger? Comment tu nourris tes familles?
Alors Philippe, vous vous êtes éloigné de l'agglomération bordelaise pour rencontrer ceux pour qui la voiture est en fait indispensable au quotidien.
Oui, à une trentaine de kilomètres de Bordeaux, le BARP. Marie-Estelle est juriste dans une association. Elle a deux enfants et elle mesure chaque jour l'impact de la hausse sur son budget.
Hop.
95, c'est bon.
Arrêtez, ben. Si je mets du diesel. voilà, ici, quand on habite ici, la voiture, c'est totalement indispensable. On s'en sert pour le quotidien, l'école, les courses, pour aller au travail. On ne peut pas faire autrement. Il n'y a pas de transport, il n'y a pas d'autobus, il n'y a pas d'autocar, il n'y a pas de tramway, il n'y a pas de train. Donc c'est sûr que ce n'est pas la même réalité qu'en ville. Oui, l'augmentation du prix de l'essence, ça crée de l'angoisse, ça crée du stress pour finir les fins de mois. Et forcément, on fait des choix sur les plaisirs d'agrément, sur les sorties, sur les plaisirs pour les enfants. Oui, évidemment, on fait attention.
Alors bien sûr, de l'angoisse, du stress, tout cela n'est pas neutre. Vous avez trouvé des conducteurs astucieux hein, qui ont pris les devants pour en fait juguler cette hausse, Philippe.
Oui, Patrice habite la Brède, à 25 km de son lieu de travail. Ce père de famille a opté il y a 6 mois pour le biocarburant en adaptant le moteur de son véhicule. Et l'économie est étonnante.
Je roule essentiellement en bioéthanol par plein. Je suis à 30-35 euros. 3 pleins par mois. Ben maintenant, au lieu de 210 euros par mois, je suis à 90-100 euros par mois. Donc je fais quand même une économie de plus de 50%. C'est énorme.
Et Patrice se ravitaille dans une vingtaine de stations sur l'agglo qui distribue du biocarburant, l'une des solutions pour tenter d'amortir la hausse.
RTL événement, la hausse des carburants vue par des conducteurs bordelais, vous l'avez compris avec vous Philippe de Maria, et ne manquez pas dans notre journal de 8h, la brigade de Christophe Bourou qui nous donnera en fait des astuces simples et concrètes pour réduire notre consommation d'essence.
RTL matin, Yves Calvi.
On va reprendre du carburant mais musical cette fois-ci, c'est l'heure de notre pépite.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Bonjour Anthony.
Alors quel est le point commun entre cette chanson?
Elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour.
Celle-ci.
Alors là, je suis incapable de répondre.
Eh bien, les clips de ces chansons, de Clo-Clo, Sheila et Enrico, à l'époque, les Scopitone, ont tous été réalisés par le même homme, Claude Lelouch.
Non.
Si, il en a tourné plus de 100 dans les années 60, d'où la force de la musique et des chansons dans mon cinéma, dit Claude Lelouch. Le 50e film de Lelouch, L'amour, c'est mieux que la vie, sort aujourd'hui en salle et il y a des pépites musicales dans le cinéma de Lelouch. En 2002, par exemple, And Now, Ladies and Gentlemen, avec ce duo swing inédit, Patricia Cass et Laura Main, une des deux sœurs du groupe Native.
I'm in the hole, the albatross. And where are you now? I'm in the hole, come and be whole. I'm singing with a jazz quartet. I've got a solo in the second set.
Musique signée Michel Legrand, s'il vous plaît.
Oui.
Autre film de Claude Lelouch, Si c'était à refaire, en 1976, et la chanson interprétée par Françoise Hardy.
Et si c'était sa panoplie, qu'enfin je ne sois plus pour lui, rien qu'une femme.
femme parmi les femmes. C'est le titre de cette rareté de Françoise Hardy. Et la même année, 76, eh bien Claude Lelouch sort le deuxième film, Le Bon et les Méchants. Et la chanson revient cette année-là aussi à Jacques Dutronc.
Est-ce que tu m'aimes? Bien sûr que je t'aime. Bien sûr que je t'aime. Quelle question sur les photos de ma jeunesse, une étrange tendresse, l'amour en noir et blanc. Aujourd'hui je sais, aujourd'hui j'ai fait.
Ça c'est la magnifique balade du bon et des méchants par Dutronc.
Je suis frappé de voir grâce à vous qu'en fait il a fait chanter des chansons assez deux pudiques, des chansons d'amour, et c'est pas facile.
Exactement.
Hein, d'accord. Merci Anthony. On se dit à demain et puis à tout moment sur l'appli RTL pour vos pépites qui nous font vivre des moments d'émotion tous les matins. Dans un instant, Louis Bodin, notre détour par le grand studio et les grosses têtes. Bonjour Louis, à tout de suite.
Bonjour.
Rire ensemble, vous le savez, c'est la devise de nos grosses têtes que l'on retrouve chaque après-midi de 15h30 à 18h. On va prendre des nouvelles de Stéphane Plaza qui a été victime d'un cambriolage.
Déjà, j'étais surpris dans la presse quand j'ai vu quand vous avez piqué des vêtements de luxe. Je me suis dit, mais alors pourquoi il aimait jamais? D'habitude, c'est vous qui les organisez, les visites des appartements.
Ouais, ce qui m'a...
Ben là, ils ont pris une grosse commission. Hein.
Non mais ils ont pris, même mes slips ils ont pris.
C'est pas vrai.
Oui, même un string ils ont pris. J'avais un petit string éléphant que je fais de temps en temps.
Attendez, vous avez un string éléphant.
Oui.
Avec la trompe devant.
Il l'avait.
Oui, bah oui, vous mettez, vous voyez, quelques... Bon, non mais, vous voyez.
Et les oreilles
sont
les côtés, la trompe. Et bien même ça, ils l'ont piqué, les gars.
Mais ils sont des fétichistes.
Oui, mais ça se retrouve. Peut-être que les cambrioleurs sont dans le public aujourd'hui. Enlevez vos pantalons.
Oui, allez.
Ils font peur des fois. Rendez-vous de 15h30 à 18h sur RTL avec Florian Gazan, Sébastien Thoen, Valérie Trierweiler, Paul Elkarat, Christine Bravo et Franck Ferrand. Cher Louis, on vous écoute.
Ouais, bah, ça s'annonce pas très brillant aujourd'hui, la météo. C'est vrai qu'hier, on a eu parfois de belles éclaircies, hein, oui. Pas forcément prévues. D'ailleurs, tant mieux, bah, fallait en profiter parce qu'aujourd'hui, je suis pas sûr que ce soit la même. Avec au contraire un ciel qui va rester très nuageux, couvert, qui va même être de plus en plus gris cet après-midi, avec des petites bruines, quelques flocons ici ou là. Alors, faudra être uniquement sur les montagnes, hein, sur les Alpes et les Pyrénées pour avoir du soleil, parce que même près de la Méditerranée, on va connaître une dégradation nuageuse. Bref, beaucoup de nuages, de l'humidité et des températures hivernales, hein, puisqu'on a quelques gelées ce matin dans l'Est, là où le ciel a été dégagé cette nuit, mais cet après-midi, 2 à 4 degrés seulement de la région Rhône-Alpes au nord-est, 5 à 8 degrés ailleurs, et 10 à 14, toujours pour les mêmes, près de la Méditerranée.
Merci beaucoup Louis Bodin, merci à vous qui nous êtes fidèles. RTL, il est 7h30.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h30, Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce mercredi 19 janvier 2022. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. C'est officiel, on nous ment. Les étiquettes de certains produits sont parfois plus que trompeuses. L'association CLCV publie aujourd'hui son best-of des plus grosses entourloupes des industriels. 5 ans d'enquête, 900 produits passés au crible et le bilan n'est pas glorieux, Pierre Herbulot.
Que ce soit pour les raviolis de bœuf ou le smoothie myrtille framboise, méfiez-vous des apparence. Le premier ne contient même pas 5% de viande d'origine bovine. Le deuxième est composé presque uniquement de pommes et de bananes. Les deux industriels n'ont rien à voir mais utilisent la même technique que dénonce Lisa Follet de la CLCV. Ils font tout pour baisser le coût de production, puis s'arrangent avec les étiquettes.
Alors nous, notre proposition, c'est qu'il soit déjà plus possible de représenter des ingrédients à l'avant de l'emballage alors qu'on a des quantités très faibles, voire inexistantes dans le produit. Donc la mise en place en fait d'une quantité minimum d'ingrédients attendus dans un produit, que ce soit de la viande, des végétaux, que ce soit du poisson.
Tromperie sur l'origine des produits, aliments ultra transformés, goûter pour enfants surchargés en sucre. L'association de consommateurs demande aux industriels plus de transparence et aux politiques de s'emparer du sujet du mieux manger en pleine campagne présidentielle.
Et si vous cherchez des produits un peu plus authentiques, sachez que le salon de l'agriculture aura bien lieu du 26 février au 6 mars. Le pass vaccinal sera obligatoire et les organisateurs promettent une ventilation optimisée. Près d'un demi-million de nouveaux cas de Covid ont été recensés en France sur les dernières 24 heures, 464 000 exactement, c'est un nouveau record. Sur la semaine écoulée, le nombre de contaminations quotidiennes dépasse désormais les 300 000 en moyenne.
Autre record, dois-je vous le rappeler? rappeler celui du prix de l'essence qui atteint des niveaux stratosphériques.
1,62€ le litre de diesel, c'est du jamais vu. Le samplon, lui, s'affiche à 1,68€. On est désormais bien au-delà des tarifs qui avaient déclenché la crise des Gilets jaunes en 2018. Voilà pourquoi RTL consacre une matinale spéciale au carburant avec cette question: jusqu'où la facture va-t-elle monter ? À Paris, elle est déjà plus que salée. Hein. Dans cette station du 11e arrondissement, le gazole est à 2,10€, un tarif qui fait fuir les clients et qui ne fait même pas vivre le gérant.
Il n'y a personne, regardez. Avant, on était à 1,87€. Et maintenant, on est à 2,10€. On a perdu 50% de marge, on a perdu 15 centimes. Au lieu de gagner 30, on gagne 15. À cause de l'augmentation des prix des pétroles, que nous, on ne peut pas percuter parce qu'après, ça va faire trop cher à la pompe. À la fin du mois, on a du mal à s'en sortir. Parce qu'il y a les frais fixes, que ça nous plaise ou pas. Ils sont là, les employés. Il faut payer les charges. Si ce n'est pas vivable, on fait comme tout le monde, on ferme.
Propos recueillis pour RTL par Julie Brault. Jean-Jacques Bourdin est désormais visé par une enquête pour agression sexuelle. C'est une ancienne collègue de BFM TV et RMC qui a porté plainte contre lui. Le journaliste vedette dément. Il l'a redit hier soir en présentant sa nouvelle émission politique La France dans les yeux, car sa première invitée, Valérie Pécresse, avait exigé un propos introductif.
Je me suis clairement posée la question de ma participation à cette émission ce soir. Si ces accusations sont avérées, elles sont graves et elles doivent être condamnées. Le combat contre le harcèlement sexuel et contre les violences faites aux femmes est un combat personnel pour moi. Trop longtemps, la société a regardé ailleurs, a fermé les yeux. Et présidente de tous les Français, je ne laisserai plus aucune femme avoir peur de porter plainte.
Je voudrais ajouter, j'ai décidé de ne pas m'exprimer à ce sujet. Mais je conteste les faits. Et je laisse la justice faire son travail.
Jean-Jacques Bourdin qui recevait donc Valérie Pécresse. De la remontada à la retirada, Arnaud Montebourg doit annoncer aujourd'hui le retrait de sa candidature à la présidentielle, a priori sans se rallier à qui que ce soit. L'actualité politique, c'est aussi le mea culpa de Jean-Michel Blanquer à l'Assemblée, puis sur TF1. Le ministre de l'Éducation a dû s'excuser hier pour ses quelques jours de vacances passés à Ibiza à la veille de la rentrée. Jean-Michel Blanquer regrette la symbolique du lieu, mais il maintient que cela n'a rien changé sur le fond. N'empêche, Emmanuel Macron est furieux de cette polémique qui vient gâcher sa belle séquence européenne. Le chef de l'État doit prononcer cet après-midi son grand discours européen pour marquer le début de la présidence française de l'Union. Ça se passe à Strasbourg, une ville où l'on mesure mieux qu'ailleurs les bénéfices de l'Europe pour la France. C'est un reportage RTL de Yannick Collant.
Saba, 23 ans, marche d'un pas tranquille sur le pont de l'Europe, direction l'Allemagne, pour une raison toute simple.
J'ai rendez-vous chez le coiffeur.
Le coiffeur, ouais. C'est en Allemagne.
Tout à fait, parce qu'elle travaille mieux. Ça fait depuis toujours que je me fais coiffer en Allemagne.
La liberté de circulation, c'est une évidence pour elle, mais ça a été une révolution pour Mohamed. Ce retraité marocain vient aujourd'hui flâner des deux côtés du Rhin. Dans les années 80, il devait demander un visa s'il voulait passer la frontière.
On n'en fait plus attention. On peut venir à pied sans visa, sans rien. Ça change beaucoup de choses.
Arrivé en Allemagne, l'Europe se voit aussi directement dans les téléphones portables. Fini les factures délirantes lorsqu'on appelle un autre pays européen. Romain Boguet est juriste au Centre européen des consommateurs.
Il n'y a plus de surcoûts comme celui-là pouvait être le cas il y a quelques années encore. Ouais. C'était très important. On n'était pas toujours informé en plus par l'opérateur de ces surcoûts. Et maintenant, c'est très encadré. C'est vrai que les gens ne sont pas toujours au courant que ces droits sont issus de l'Union européenne. Ils pensent que c'est un droit national, mais la plupart du temps, c'est évidemment issu d'une directive européenne.
Une nouvelle coiffure, une promenade au bord du Rhin ou un coup de téléphone, c'est parfois aussi cela, l'Europe au quotidien.
Yannick Collant à Strasbourg pour RTL.
Alors l'Europe est-elle une chance ou un boulet pour la France ? Eh bien ce sera notre débat France 2022 à 8h35 avec tous les spécialistes de la rédaction. Aux États-Unis, le déploiement de la 5G, elle va attendre un petit peu.
Oui, hein. Les deux opérateurs, AT&T et Verizon, ont accepté de retarder la mise en place car plusieurs compagnies aériennes ont sonné l'alarme. Elles redoutent le chaos autour de certains aéroports. Les fréquences de la 5G pourraient perturber les instruments de bord des avions. Quatre soldats français de l'opération Barkhane ont été blessés hier au Burkina Faso. L'un d'eux est grièvement touché. C'est une bombe artisanale qui a explosé au passage de leur véhicule tout-terrain. Elle avait été l'otage des FARC pendant 6 ans. Ingrid Betancourt se lance dans la présidentielle en Colombie.
Que voy a participar en la consulta.
La franco-colombienne est à la tête d'un petit parti écologiste baptisé Vert Oxygène. On passe au foot avec cet exploit historique des Comores qui ont remporté hier leur premier match en Coupe d'Afrique des Nations. très très content, on l'entend. Cette petite équipe 132e au classement FIFA s'est imposée 3-2 face au Ghana et elle peut encore espérer se qualifier pour les 8e du tour. En Ligue 1, Atem Ben Arfa est annoncé à Lille, ça devrait être officialisé aujourd'hui. Lille qui reçoit Lorient ce soir à 19h en match en retard de la 20e journée, en rattrapage aussi Clermont-Strasbourg et Montpellier 3.
Merci beaucoup Isabelle, on vous retrouve donc à 8h35 avec le grand débat de la présidentielle France 2022. L'Europe est-elle une chance ou un boulet pour la France? Et d'ailleurs, nous serons aussi accompagnés de François Langlais. Bonjour
oui.
François.
Bonjour.
Dans un instant, vous allez nous expliquer les tensions chez EDF. Un appel à la grève a été lancé pour mercredi prochain. Quel impact pour les salariés, mais aussi pour les Français?
Mais oui, vous vous souvenez de cette pub, nous vous devons plus que la lumière, oui. C'est ce que disait EDF. On leur prend aujourd'hui tellement plus que la lumière que le mammouth est sur le flanc et qu'il est en risque de ne pas se relever.
Explication dans un instant. On va essayer de ne pas couper le courant.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h39, l'Angléco avec vous, François Langlais.
Bonjour à tous.
Alors dites-moi, c'est la crise et même la grosse crise à EDF.
Oui, un véritable choc qui va peser lourdement sur nos résultats. C'est ainsi que le patron de l'entreprise publique, Jean-Bernard Lévy, a qualifié les mesures prises par le gouvernement pour limiter la hausse des factures d'électricité. Il a dit ça dans un message aux salariés. Et plusieurs syndicats d'EDF, à l'unisson du dirigeant, ont lancé un appel à la grève mercredi 26 janvier pour protester contre, je cite, « la destruction d'EDF ».
Les termes sont incroyables. Qu'est-ce qui motive une telle rébellion ?
Le fameux bouclier tarifaire sur l'électricité. Pour limiter la hausse à 4%,
oui.
Le gouvernement, bien sûr, il baisse les taxes, mais il impose aussi à EDF de vendre une grosse quantité d'électricité à ses concurrents privés à prix cassé, de façon à ce que ceux-ci puissent pratiquer eux aussi un tarif modeste pour les consommateurs. Conséquence, EDF va vendre aux autres énergéticiens le kilowattheure une quarantaine d'euros, alors que son prix sur le marché est de 150 à 200 euros. Ouais. Perte de chiffre d'affaires, environ 8 milliards. Ouf. Pour une entreprise qui croule déjà sous les obligations et les investissements à faire. Une entreprise fragilisée, n'hésitons pas à le dire ce matin.
Voilà, Altola, qu'est-ce que vous nous dites sur notre joyau national ?
Ça tombe de tous les côtés, les tuiles. D'abord, EDF, rappelons-le, a été malmené par les errances du gouvernement sur le nucléaire. Début 2020, on lui impose la fermeture de la centrale de Fessenheim, dans la foulée d'un engagement qui avait été pris par François Hollande et repris par Emmanuel Macron. Puis, le président de la République change d'avis, à la faveur de la crise énergétique mondiale, et relance le nucléaire. Le frein et l'accélérateur enfoncés en même temps. Après la faillite d'Areva, le constructeur des centrales nucléaires, un scandale d'État d'ailleurs, on missionne EDF pour reprendre une partie du grand corps malade, pour 2 milliards d'euros. EDF sort le chéquier. Après la quasi-faillite d'Alstom, propriété de General Electric en France, on lui demande aujourd'hui de reprendre certaines unités industrielles pour un bon milliard. EDF va à nouveau faire un chèque. Ça devrait être annoncé dans les prochains jours. C'est plus EDF, c'est Saint-Bernard.
Oui, et puis c'est nous aussi. Alors dites-moi, il y a plus d'investissement à faire sur ces centrales ?
Oui, si, il y en a. Ah bon ? Ils sont considérables. Pour en prolonger l'existence, pour démanteler les plus anciennes, même si d'ailleurs les sommes ont été heureusement en partie provisionnées, investissements énormes encore dans les énergies renouvelables, dans le réseau électrique qui doit être modernisé. Tout ça s'évalue au bas mot en dizaines de milliards. Pour faire bonne mesure, une douzaine de réacteurs sont aujourd'hui arrêtés pour maintenance, plus longtemps que prévu. EDF doit donc s'approvisionner sur le marché à une époque où les prix sont très élevé.
Il nous manquait plus que ça. Ça peut durer longtemps comme ça, cette histoire ?
Non, oui. Le titre a été massacré en bourse ces derniers jours à cause de tous ces nuages qui s'amoncellent. L'entreprise va probablement voir sa note financière dégradée, une note qui, vous le savez, évalue situation et perspective et surtout conditionne l'accès au marché du crédit, c'est-à-dire à l'argent.
Mais François, est-ce que ça veut dire que l'entreprise peut faire faillite ? On parle d'EDF.
Écoutez, en tout cas, ça veut dire qu'il va falloir la recapitaliser massivement. C'est l'État, actionnaire de très loin majoritaire, qui va devoir le faire. Prise dans des injonctions contradictoires, sommée de financer indirectement la campagne électorale du président en protégeant le pouvoir d'achat, victime d'un marché européen faussement libéralisé avec des règles contestables, EDF est en danger, au moment même où il faudrait accélérer dans la transition énergétique.
Merci beaucoup François Langlais, on vous retrouve tout à l'heure à 8h35 pour notre grand rendez-vous France 2022 avec les experts de la rédaction. Nous nous demanderons si l'Europe est une chance ou un boulet pour la France. À tout à l'heure cher François. Il est 7h42, bonjour Alba Ventura.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Votre invité ce matin.
Adrien Quatennens, député de la France Insoumise du Nord. Il y a l'Europe au menu puisque le président Macron prend la parole devant le Parlement à Strasbourg aujourd'hui. Alors est-ce que le discours des Insoumis est toujours aussi dur envers l'Europe qu'il y a 5 ans ?
À tout de suite avec Adrien Quatennens sur l'antenne d'RTL.
RTL.
RTL Matin
avec Yves Calvi.
Il est 7h44, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez ce matin le coordinateur de la France Insoumise, député du Nord, Adrien Quatennens.
Bonjour Adrien Quatennens.
Bonjour Alba Ventura.
Et je précise que vous êtes l'auteur de Génération Mélenchon que vous venez de publier au Seuil. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, a regretté hier avoir choisi Ibiza pour 4 jours de vacances en fin d'année en plein protocole sanitaire à l'école. Il s'est excusé, Adrien Quatennens, c'est bon, on passe à autre chose.
Mais rendez-vous compte, Alba Ventura, il ne nous a même pas envoyé de carte postale d'Ibiza. C'est incroyable.
Vous le regrettez ?
Évidemment. Non, plus sérieusement, écoutez, ce qui est en cause, c'est pas tant le fait que le ministre prenne des vacances. Bon, il a reconnu le choix symbolique d'Ibiza, et vous savez qu'en politique, la symbolique, ça a du sens, ça compte. Mais plus que ces vacances, ce qui pose problème, c'est le cadre dans lequel le protocole sanitaire a été élaboré et annoncé. Vous rappelez que 2 jours avant la rentrée, les enseignants, les parents d'élèves apprennent dans un article payant de vos confrères du Parisien le protocole sanitaire. Un article dont on apprend en réalité qu'il a été, enfin l'interview a été faite depuis Ibiza, alors que les illustrations montraient un ministre à sa tâche dans son bureau à Paris.
Mais
je crois que la symbolique est très forte.
Sur le fond, Adrien Quatennens, avoir tout fait pour maintenir les écoles ouvertes, parce que c'est ça le sujet de fond, même si effectivement le protocole est compliqué, il n'y a pas les capteurs suffisants, pas de masques suffisants pour les... Les écoles maintenues ouvertes, c'est pas ça le sujet principal,
mais
essentiel.
Vous avez raison, les écoles maintenues ouvertes, c'est un objectif, mais à la condition d'une sécurité sanitaire garantie et donc de l'application de protocoles clairement établis. Je crois que le principal problème et la raison pour laquelle d'abord nous demandons le départ de M. Blanquer, c'est qu'aujourd'hui il a concentré
vous
tellement...
Vous demandez toujours la démission
mais évidemment, de Jean-Michel. Pas simplement à cause de cette affaire d'Ibiza. Nous la demandions, sa démission, avant,
mais alors vous dites
dès
deux choses contradictoires,
dernière.
Vous dites que c'est important de maintenir
mais
les
alors justement,
écoles ouvertes, mais...
Écoutez, ma réponse, maintenir les écoles ouvertes, oui, à la condition de protocoles sanitaires clairement établis. Ça fait 2 ans que nous nous évertuons, presque chaque semaine à l'Assemblée nationale, devant un ministre qui répond toujours avec une arrogance et un mépris qu'il ne réserve pas seulement aux enseignants et aux parents d'élèves, mais aussi aux parlementaires d'opposition. Nous lui demandons de faire ce qu'il faut à l'école et d'écouter les enseignants qui sont les mieux placés pour savoir quels sont les meilleurs protocoles à mettre en place. Ça fait 2 ans d'ailleurs, vous n'en pouvez plus de nous entendre le réclamer, qu'on dit qu'il faut installer les purificateurs d'air dans les salles de classe, qu'il faut dédoubler les effectifs en recrutant par exemple 100 000 jeunes comme Jean-Luc Mélenchon l'a proposé pour qu'on puisse dédoubler les classes. Pourquoi pas, si nécessaire, réquisitionner des locaux. Bref, les professeurs eux-mêmes demandent l'installation des capteurs de CO2 et les distributions des masques FFP2. Jean-Michel Blanquer est incapable de procéder à l'organisation concrète, méthodique, de la planification nécessaire pour que l'école puisse continuer, j'en suis d'accord avec vous, mais avec une situation garantie du point de vue sanitaire.
Si vous le voulez bien, on enchaîne sur l'Europe, parce que c'est aujourd'hui que le président Macron s'exprime devant le Parlement européen. À Strasbourg, discours qui donne le coup d'envoi de la présidence française de l'Union européenne. La France va occuper cette présidence pendant 6 mois. Pour marquer le coup, Jean-Luc Mélenchon organise ce soir un meeting à Strasbourg. Adrien Quatennens, il y a 5 ans, le slogan de Jean-Luc Mélenchon, c'était « L'Europe, on la change ou on la quitte ». Aujourd'hui, c'est plutôt « On la change ou on la change ».
On a précisé les choses, c'est-à-dire qu'en fait, on se situe d'un point de vue très simple, que je m'en vais vous résumer. En toute hypothèse, le programme choisi souverainement par les Français sera appliqué. Quoi qu'il en coûte, j'allais dire. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que l'Union européenne qu'on a sous nos yeux, c'est très loin de l'Union européenne de nos rêves que certains nous ont vendus. Qui peut croire aujourd'hui encore sincèrement, Alba Ventura, à une Europe démocratique, sociale, écologique ? On a en fait sous les yeux simplement un marché. Un marché qui organise la compétition entre les États membres en refusant l'harmonisation sociale et écologique.
Oui,
et
mais donc, aujourd'hui, vous acceptez d'être dans ce cadre européen. Vous faites comme Marine Le Pen. Il y a 5 ans, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui,
non,
vous acceptez d'être dans ce cadre européen.
On ne fait pas comme
vous
Marine...
avez changé de méthode.
Non, on ne fait pas comme Marine Le Pen. Nous avons précisé la méthode.
Bah,
et donc, je vous
la
résume.
Vouliez sortir des traités.
Mais c'est toujours le cas, en fait. Simplement...
Vous vouliez la sortie de l'euro.
Non.
Si.
Ah non, la sortie de l'euro n'a jamais été au programme de Jean-Luc Mélenchon, Alba Ventura, et pour des raisons économiques que tout le monde comprend. Non, laissez-moi vous expliquer.
Il l'explique dans son interview du Monde hier, ou alors on n'a pas lu la même interview.
Alba Ventura, je vous explique. On a regardé les points d'incompatibilité entre le programme que nous souhaitons appliquer.
Attendez, il dit même que le marché économique aujourd'hui ne permet pas de sortir de l'euro, ce serait le chaos. Voilà.
Mais
je
vous redis, Alba Ventura, que la sortie de l'euro n'a jamais été à l'ordre du jour du programme de Jean-Luc Mélenchon. Maintenant, si vous voulez que je réponde à votre question, laissez-moi le temps de le faire. Il y a un certain nombre d'incompatibilités entre le fonctionnement actuel des traités européens et le programme que nous voulons appliquer. Par exemple, nous savons que les traités de libre-échange s'opposent au protectionnisme écologique que nous voulons instaurer, que la concurrence libre et non faussée et l'objectif absolu de la Commission européenne, le carcan budgétaire avec les règles austéritaires, etc. etc. Aujourd'hui, comprenez-le, vous ne pouvez pas appliquer un programme de rupture sociale et écologique dans le cadre des traités. Alors, bah, écoutez, c'est simple. Cette affaire de plan A, plan B, qu'on a réexplicité dans le plan Europe que j'invite vos auditeurs à aller écouter, puisque nous avons sorti le programme L'Avenir en commun, et désormais on le précise avec toute une série de plans. Ça consiste à dire, plan A, on propose aux autres États des changements sur un certain nombre de règles, par exemple sur la souveraineté budgétaire, sur l'indépendance de la Banque Centrale Européenne. Mais si ça n'est pas souhaité, eh bien nous désobéirons à chaque fois que les directives européennes, les traités ou les règlements s'opposeront à notre programme. Et d'ailleurs, beaucoup d'États européens ne se privent pas de désobéir à chaque fois que leurs intérêts sont mis en cause. Vous devez simplement
mais
comprendre, en résumé...
Mais vous dites, par exemple, que vous voulez remettre en cause la règle des 3% des déficits publics. C'est exactement ce que Emmanuel Macron et Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, sont en train de faire.
Alors, vous avez peut-être mal lu la feuille de route d'Emmanuel Macron,
toujours,
celle qu'il
c'est
a...
C'est toujours notre faute.
Mais non, mais si vous voulez, comme vous êtes soucieuse de précision, Emmanuel Macron a présenté, il y a quelques mois de cela, sa feuille de route à la Commission européenne en cas de réélection. J'ai envie de vous dire, Alba Ventura, le programme d'Emmanuel Macron, s'il était d'aventure réélu, ce que je ne souhaite pas, vous le savez, c'est le retour à l'austérité budgétaire avec le carcan des 3% d'ici 2023, c'est la réforme des retraites qui est pour l'instant au placard, et c'est toute une série de réformes auxquelles il s'est engagé, en contrepartie notamment du fameux plan de relance européen, qui d'ailleurs va nous rapporter moins que notre contribution au budget.
Le plan de relance, c'est 750
mais comme je veux, milliards, comme, je le comme rappelle. Je veux me soucier d'être bien compris des auditeurs qui nous écoutent, ce que je dis, c'est que toutes celles et ceux, candidats à l'élection présidentielle, qui promettent des ruptures sur le plan social, écologique, par exemple, si vous voulez réinstaurer des pôles publics, par exemple l'énergie, vous voyez les prix de l'énergie qui montent parce que le prix de l'électricité est indexé sur le gaz par effet de marché. Si vous voulez réinstaurer un pôle public, si vous voulez interdire un certain nombre de pesticides, revenir sur un certain nombre de points de concurrence, vous ne pouvez pas aujourd'hui le faire dans le cadre des traités qui l'en empêchent. Donc simplement, ce qu'il faut résumer...
Vous dites toujours que c'est l'Allemagne qui a le dernier mot.
Mais on n'a pas besoin, précisément, ce que nous disons dans ce plan Europe, c'est qu'on n'a pas besoin nécessairement d'être suivi. Bien sûr, on va essayer de convaincre les autres de l'incapacité à faire autre chose dans le cadre de ces traités, mais s'ils n'en sont pas convaincus, ce que nous disons, c'est qu'en toute hypothèse, retenez simplement ça, c'est ce qu'il y a de plus simple à retenir, quoi qu'il arrive, si les Français nous donnent mandat pour appliquer un programme, ce programme s'appliquera, quels que soient les obstacles, par le système de l'opt-out, c'est-à-dire de la désobéissance. Et un certain nombre de pays le font déjà. Voilà. Nous ne pouvons pas rester enfermés dans cette camisole de force des traités qui nous impose la concurrence libre et non faussée, l'austérité budgétaire, alors que nous avons tant de choses enthousiasmantes à faire qui vont nécessiter beaucoup d'investissements.
Un mot encore, Arnaud Montebourg, sur le point de se retirer. Il ne soutiendra pas de candidat, dit-il. Ça, vous le regrettez ?
Ben écoutez, non, c'est-à-dire que c'était assez prévisible, mais ce que j'observe en tout cas, c'est que Arnaud Montebourg préfère même disparaître que d'aller soutenir, par exemple, Christiane Taubira. On a entendu que c'était peut-être à l'ordre du jour. Mais
peut-être qu'il trouve que la gauche est quoi, à l'agonie, moribonde, supplacante.
Écoutez, vous savez, on est à moins de 3 mois maintenant de l'élection présidentielle et s'observe dans les sondages ce que nous avions prédit. C'est-à-dire que désormais, le candidat qui est largement en tête à plus du double de ses concurrents à gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et quand vous voyez à quel point le second tour désormais a un ticket d'entrée qui est beaucoup plus bas, de l'ordre de 15 à 16%, on se dit que le second tour
encore,
est atteignable. Ben oui, mais Alba Ventura, vous aura pas échappé qu'en janvier 2017, c'est-à-dire à la même période, on était à 10, 13 dans le même étiage qu'aujourd'hui. Donc la participation populaire, c'est l'enjeu. Et pour ça, je le dis, c'est convaincre et arrêter de semer la désespérance comme le font par exemple les tenants de cette fameuse primaire populaire dont le Canard Enchaîné fait des révélations affligeantes aujourd'hui sur les dirigeants et leurs méthodes, qui ont une volonté de finalement torpiller toute candidature qui viendrait se positionner. Ils ont prévu d'empêcher Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot d'avoir des prêts, d'avoir des parrainages. C'est d'une violence et d'une brutalité sans nom. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est convaincre le grand nombre. Nous ne voulons pas être mêlés à cette logique dont clairement les intentions ne sont pas très claires. Voilà.
Merci Adrien Quatennens.
Merci de m'avoir invité.
L'entretien, comme chaque jour, est à retrouver sur l'application mobile RTL. Et Adrien Quatennens, vous restez avec nous puisque dans un instant, vous serez dans l'œil de Philippe Cavrivière. A tout de suite.
L'œil de Philippe Cavrivière.
Ah, j'en atteste, il est 7h55.
Tout à fait.
Bonjour Philippe. Alors, Adrien Quatennens est évidemment resté avec nous pour votre chronique.
Et il était bon, Adrien. À chaque fois que j'entends parler de vous, j'entends Adrien, il est bon. Puis en plus, à RTL, bon, je ne veux pas dire que vous jouez à l'extérieur, Adrien, mais disons qu'on incarne une gauche modérée. RTL, c'est une gauche moins radicale que France Inter. RTL, c'est la gauche, Michel Sardou, ah on l'a déjà dit. Eh oui. Alors désolé, je pourrais pas faire une chronique avec 200 mètres carrés d'écran géant, son Dolby spatialisé. Là, Monsieur Quatennin, ça a les goûts de luxe maintenant en matière de prestations scéniques. Oh, j'ai des huiles essentielles, si vous voulez. J'ai mis une bougie pour Odorama, on fait les malins.
Ça suffit
en fait,
comme
c'est...
ça.
Oh, c'est pas mal. Alors... Ah si, ça s'en va. Mais j'aime bien, j'aime beaucoup votre discours, Adrien, parce que je trouve le discours généreux et j'aimerais tellement être d'accord avec vous et dire les patrons, c'est quand même tous des gros bâtards. Mais comme il y a le PDG d'RTL qui est juste derrière la vitre, j'ai encore une fois décidé de miser sur la lâcheté et c'est un peu mon ADN.
Bon, en tout cas, vous avez regardé, Philippe, la nouvelle émission de BFM.
Je suis professionnel.
Hier. Ben oui, bien sûr. La France dans les yeux avec Valérie Pécresse.
Oui, mais Jean-Jacques Bourdin aurait pu citer le petit Gibus.
Ah, bon, bien sûr,
Troisième seconde de l'émission. Tacle à la carotide de Valérie Pécresse. Bonsoir, vous êtes accusé d'agression sexuelle, monsieur Bourdin. La petite larme de sang dans l'œil de l'idole des chauffeurs de taxi. Vous avez vu la surprise dans l'œil de Jean-Jacques? Ouais, bah, il avait la tête du gars à qui on fait une coloscopie, mais sans le prévenir.
C'est douloureux. J'aurais apprécié une petite anesthésie locale.
Alors, parenthèse, ça fait 20 ans que je suis dans le métier, moi. Je suis toujours pas accusé d'agression sexuelle. Hein. J'ai eu deux aventures. Une avec Denise Gray et une avec Bernadette Chirac. Il y en a une qui est morte, l'autre qui s'en rappelle plus.
C'est pas possible.
Si
c'est, alors, possible. Oui, bon.
C'est du direct.
J'entends bien. Alors, on a appris hier qu'Arnaud Montebourg allait annoncer le retrait de sa candidature.
Quel coup de tonnerre. Alors qu'il avait la victoire à portée de... Non, il y avait une trotte quand même, mais bon, c'était horrible pour ses militants.
La fin.
Bon, non, ça c'est le son c'est de Jospin. On n'a pas trouvé de son de militant très triste de Montebourg. Bon, Arnaud, mais c'est de votre faute aussi, Adrien, ça je dois le dire. Arnaud, il a vu le meeting de Mélenchon. Bah, il a compris, il a dit, bon ben, je remballe mon stand, mes trois tréteaux, mes deux pots de miel. Il y a quelqu'un pour m'aider? Non, bon ben, je vais le faire tout seul. La solitude, quoi.
Alors, vous avez quand même quelques conseils pour sauver la gauche, Philippe.
Mais bien sûr, j'ai mon petit livre de chevet. Ah. L'art de la guerre. Qu'est-ce qu'il dit, Sun Tzu, page 54 ? Attirez l'adversaire par la promesse d'un avantage, prenez-le au piège en feignant le désordre. Putain, c'est exactement ce que fait la gauche. Ils font semblant que c'est un énorme bordel. Et tout le monde est tombé dans le panneau. Oh, c'est des malins, les gars. Nous, on a tous cru qu'ils étaient nuls. Oui.
Bon, écoutez, revenons à Jean-Michel Blanquer, si vous le voulez bien. Toujours oui. Dans la tourmente après la révélation de ses vacances à Ibiza.
On parlait, Blanquer, à deux nobles combats. Laisser les écoles ouvertes en France et les boîtes de nuit en Espagne. Le dry January, il en a rien à foutre, mon Jean-Mi. Il veut du spritz, de la fiesta, du mojito. Et ça explique sûrement pourquoi le protocole sanitaire était un peu confus, on va le dire, hein, au départ. Bon, il l'a rédigé en discothèque, avec neuf tequila paf dans le cornet, la cravate autour de la tête. Ah, J, O plus 4, moins 2, le PCR négatif, on pharmacie. Le masque, on l'enlève, on le remet. Non, on le remet un petit peu quand même. Alors, plus 3 mois d'isolement, et hop, là, voilà, là, t'en prends de quoi, le Macron? Allez les filles, j'arrive.
Dites-moi, ça s'est passé comme ça.
Oui, on sent qu'il y a du vécu.
On a été surpris par le choix de la destination, en fait, Ibiza.
Ben oui, on ne l'imagine pas, Ibiza, Blanquer. Non. On l'imagine plus aller visiter le musée du Parpaing à Düsseldorf avant d'aller dîner avec des amis comptables allemands, des François Langlet, des Französisch, des British. Et c'est Mediapart qui a révélé la news. Bon, ils ont déjà emmerdé Hortefeux sur le yacht Takedine, oui. Sarkozy sur le bateau de Bolloré, maintenant Blanquer à Ibiza. Ils ont un problème avec les vacances,
mais
Mediapart ou quoi?
Écoutez.
Mais pour pas avoir d'emmerde avec Mediapart, faut faire quoi? Faut partir en vacances avec Angela Merkel à Sochaux?
Ah,
c'est ça que vous voulez?
Écoutez, vous êtes agacé qu'on accueille Jean-Michel Blanquer,
agacé.
Je le sens, oui.
Ah, oh, je suis agacé. On le sait tous, ce n'est pas l'homme qui décide de la destination des vacances, c'est la femme.
Ah.
Elle décide de tout, la femme. Ah, je vais mettre les pieds dans le plat. Si Jean-Mi a fait le sacrifice de partir à Ibiza, c'est pour faire plaisir à sa deuxième épouse. On donne toujours plus à la deuxième. Alors, c'est triste, mais c'est vrai. Sa première épouse, on dit au mieux, on l'amène en vacances chez Leclerc, on dit « Vas-y, prends-toi deux baguettes à 29 centimes, éclate-toi, Paulette !» Et la deuxième, on l'emmène à Ibiza, car...
L'homme est laid.
Alors, Adrien, prochaine vacances, attention, vous êtes France Insoumise, pas de boulettes. Réservez un camping 2 étoiles à Dunkerque, en tant que Quechua. Vous êtes de Lille, Dunkerque, Lille, comme ça, elle pourrait rentrer à manger le midi dans le nord, manger le fricadelle, la tarte Overwell. Vive Lille, on embrasse les Lillois et les auditeurs.
J'espère
du nord.
J'espère bien, oui.
Du nord.
Comptez sur moi. Si vous êtes en forme, vous faites peur, là. Bon, l'œil de Philippe Cavrivière, chaque matin à 7h55 et en direct. Et quand vous le voulez, en replay. Merci d'être resté avec nous, Adrien Quatennens. Bonne journée à vous. Oui, bonne à notre météo, s'il
oui,
vous plaît.
Oui, ça va être simple. Aujourd'hui, ça va être gris et regris dans toutes les régions ou presque. Hein. Il faudra être en montagne, là, en altitude sur les Pyrénées et les Alpes pour avoir un peu de soleil. Mm-hmm. Sous cette grisaille, on aura des petites bruines, parfois quelques petits flocons. Même près de la Méditerranée, on va connaître une dégradation nuageuse, le tout avec des températures hivernales. 2 à 4 degrés seulement de la région Rhône-Alpes, Auvergne ou encore dans le nord-est. 5 à 8 degrés ailleurs et 10 à 14 quand même près de la Méditerranée.
Merci beaucoup Louis Baudin, merci à vous qui nous écoutez. Il est 8h01.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est grand temps de retrouver le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une ce matin, RTL à vos côtés, à la pompe, matinale spéciale donc sur les prix de l'essence et des carburants.
Oui, les records sont dépassés pour le diesel, pour le sans-plomb. Le plein coûte en moyenne entre 10 et 15 euros de plus depuis un mois. Ça va durer, on verra dans ces conditions comment économiser. Conseil très pratique de la brigade RTL ce matin. Attention à la pression des pneus, attention si vous avez des galeries sur le toit, ça peut faire économiser 20% de consommation. À la une également, ce pharmacien parisien escroc au test anti-Covid, il est en prison, accusé d'avoir volé 18 millions d'euros à la Sécu. Emmanuel Macron furieux contre Jean-Michel Blanquer et ses vacances à Ibiza, qui sont venus gâcher sa semaine européenne alors que le président prononce son discours cet après-midi devant le Parlement de Strasbourg. Et puis, portrait étonnant, en fin de journal, elle tire des camions à main nue. RTL a rencontré à côté de Lyon la femme la plus forte de France.
Elle est incroyable. Dès la fin du journal, le surf de l'info avec Cyprien Sini.
Et il n'y a pas que la brigade RTL, il y a aussi les bons plans du surf de l'info pour économiser de l'essence. Je vous préviens, ça dépote.
Vous avez raison, il faut toujours défendre sa boutique. Bah oui. À 8h20, notre débat du jour, justement sur l'essence, les prix élevés sont-ils irréversibles et de façon définitive? Et puis à 8h35, notre nouveau rendez-vous tous les matins sur RTL, France 2022, l'Europe est-elle un boulet ou une chance pour la France? À quelques heures donc du discours d'Emmanuel Macron.
RTL Matin.
On n'a donc jamais payé le carburant aussi cher en France. 1,62€ le litre de diesel la semaine dernière, 1,68€ pour le sans-plomb. Matinale spéciale sur RTL avec vous. À côté de ces pompes à essence qui engloutissent les budgets, 10 à 15 euros, je vous le disais, en plus pour le plein depuis un mois. Reportage à Brignais, à 20 km de Lyon, de Frédéric Perruche.
Oui, une flambée des prix qui n'échappe pas à Christophe qui travaille à Lyon à 20 km de là.
Je prends toujours 15 litres, moi, 15 litres par 15 litres. Et c'est vrai que l'année dernière, j'en avais pour moins de 20 euros. Et puis cette année, bah, vous allez voir, voilà, 24,74. Bah, ça a pris 5 euros, quoi, pour 15 litres.
Le gasoil flirte avec la barre des 1,65 € et c'est un problème pour Florence, mère de famille.
Là, j'en ai mis que 30 litres et ça me coûte 50,03 €. Donc 1,64. Moi, j'avais 150 € de budget à peu près par mois et là, c'est beaucoup plus. On fait un peu plus attention sur d'autres choses et alors qu'on a des salaires corrects, on compte quand même. Alors que normalement, on ne devrait pas compter. Quoi.
Et que dire quand on gagne un simple SMIC comme Sylvie?
C'est une envolée comme pour le gaz, comme pour tout. On est impacté partout. Quand on est au SMIC, ça va vite, hein. On n'a plus grand-chose, si on met pour l'essence, on ne peut pas bouffer. C'est à la fin du mois, on se rend compte que le compte il est vidé beaucoup plus vite.
Ce qui pousse de plus en plus d'automobilistes à passer au bioéthanol à 75 centimes du litre dans cette station-service rurale.
Merci beaucoup Frédéric Perruche. Matinale spéciale, donc carburant ce matin sur RTL. Avec maintenant la question qu'on se pose tous. Bonjour Martial Youx.
Bonjour.
Est-ce que ça va durer?
Eh bien oui. Et je vous annonce déjà que la semaine prochaine, on battra de nouveaux records parce que le prix mondial du baril de pétrole continue d'augmenter. Plus de 88 $ en ce moment, en hausse ce matin de 1%. On est au-dessus du niveau de 2014. On se dirige vers un baril à 100 $. Depuis avril 2020, le prix du baril a été multiplié par 4. Donc la cause, bah, c'est la reprise économique bien sûr très forte au niveau mondial. Les cargos fonctionnent au fioul, les usines au gaz ou aux hydrocarbures et l'OPEP n'augmente pas sa production. Donc ça crée des tensions sur les prix.
Merci beaucoup Martial Youx, chef du service économique d'RTL. On l'a donc compris, ça va durer. Du coup, pour faire baisser la note, pas d'autre choix. Il faut diminuer sa consommation. Quels sont les bons gestes à adopter pour cela? On en parle avec la brigade RTL. On est avec Christophe Bourou, ça tombe bien, vous passez votre vie, vous, en voiture, c'est votre métier en partie. On vous retrouve d'ailleurs devant votre Clio, et diminuer sa consommation, ça commence avant même de démarrer, Christophe.
La première chose à vérifier lorsque vous roulez,
pour consommer moins, eh bien, c'est de vérifier la pression des pneus. Non seulement vous allez gagner en sécurité, mais aussi en consommation. Et là, on peut gagner jusqu'à 10 voire 15% si on a des pneus bien gonflés. L'autre chose à vérifier auquel on pense absolument jamais, si vous n'avez pas l'utilité des barres de toit, enlevez-les. C'est comme les porte-vélo. Parce qu'alors là, ça fait vraiment, vraiment consommer. Et pas qu'un peu, ça va jusqu'à 20%. Tous ces conseils mis bout à bout, déjà, vous allez gagner pas mal sur votre consommation. Ce que je vous propose maintenant, c'est de monter à l'intérieur de la voiture et voir ce qu'on va pouvoir aussi économiser en conduisant.
Allons-y, Christophe. Et justement, une fois derrière le volant, un mot d'ordre, le pied léger sur l'accélérateur.
Alors, surtout, vous évitez au démarrage ça. C'est-à-dire d'aller à fond, parce que là, je regarde sur l'ordinateur de bord, c'est 17 litres au 100. Mmh. Roulez zen et surtout, passez les rapports plus vite possible. Première, seconde, troisième, quatrième, cinquième, même en ville, vous allez alléger le moteur et lui permettre de mieux fonctionner et donc de moins consommer.
Et à l'arrêt, là aussi, on peut faire des économies ?
Alors, lorsque vous arrivez au feu rouge, là, c'est le cas. Si vous avez une voiture qui est ancienne, donc il n'y a pas le système stop and start qui coupe automatiquement le moteur, surtout si vous êtes dans un bouchon, n'hésitez pas à couper le moteur lorsque vous êtes arrêté plus de 20 secondes, parce que là, vous allez gagner en consommation de l'ordre de 5% par exemple en ville.
Et alors, petit détour par la station-service, Christophe, on peut encore faire des économies directement à la pompe avec ce dernier conseil qui est assez peu connu.
Si vous pouvez, faites le plein le matin. Il faut savoir que toutes les stations ont leur réservoir enfoui dans le sol et la terre étant plus froide le matin, donc il y a une densité eh bien, qui est plus grande. Et quand vous remplissez un litre, c'est vraiment un litre, alors qu'en journée, c'est pas tout à fait un litre. Et puis aussi, avec le pistolet, allez sur la version lente. Vous avez version lente, moyenne ou rapide, parce que là aussi, il y aura beaucoup moins d'évaporation.
Voilà, donc le plein le matin. Merci beaucoup Christophe Bourroux, la brigade RTL et tous ces conseils pratiques pour faire baisser la facture.
Il y avait des infos. Hein. Tiens, on va continuer à parler pouvoir d'achat d'ailleurs avec notre nouveau rendez-vous sur RTL. 7 jours sur 7, reportage pour parler en profondeur de vos préoccupations jusqu'à la présidentielle.
Oui, on est, vous le savez, depuis le début de la semaine à Orléans. Troisième épisode ce matin dans cette rue de la République très commerçante, où vous avez pu voir, Valentin Boisset, concrètement un phénomène dont on parle beaucoup, le fait que les petits commerçants ont le plus grand mal à recruter.
Oui, en marchant dans cette rue, on peut lire des affiches « Cherche serveur, recrute agent immobilier » ou encore « Poste de coiffeur à pourvoir ». Je rentre chez une esthéticienne.
Aujourd'hui, oui, je suis toute seule.
Certains patientent, car pour Lisa, c'est la course.
On court, bah, on est obligé, hein, parce qu'il faut être partout.
Un quart d'heure, je laisse vous installer.
Bien avant le Covid, moi j'avais remarqué qu'on n'avait plus du tout de candidatures libres, plus de jeunes aussi. L'esthétique, tout ça, maintenant, il n'y a plus rien.
La jeune femme a entendu la proposition d'augmenter les salaires de la restauration, mais pour elle, c'est tout le secteur de l'artisanat qui est concerné.
Au niveau salaire, au niveau tout ce qui est métier artisan, on sera obligé aussi.
Je me rends ensuite chez le coiffeur en face.
Ça fait un bout de temps qu'on recherche parce qu'on ne trouve pas forcément.
Combien de temps en général ?
Pas mal de mois, pas mal de mois.
Salomé reprend ses ciseaux pour faire une démonstration à Manon, car sur les 8 salariés, 3 sont en formation.
Je vous laisse patienter quelques minutes.
CAP ou apprentissage, un bon moyen de pallier le manque de main-d'œuvre.
C'est vraiment une passion, c'est vraiment ce que j'aime faire. Il faut vraiment être au contact de la clientèle.
C'est nos bébés, comme on dit.
Donc là, vous êtes contente quand vous entendez...
Très, ils ne sont pas tous, donc c'est pour ça, quand on en a qui sont motivés, on les garde. On les lâche pas.
Garder au maximum, car la dernière fois, un apprenti est parti, faute de motivation.
Merci beaucoup Valentin Boisset, on vous retrouve demain, même heure, même endroit, et toute votre série Orléans, 7 jours, 7 reportages sur le site et l'application numérique RTL. La situation de la dette doit nous inquiéter, mise au point ce matin du gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo, pour qui le quoi qu'il en coûte n'est plus justifié actuellement. D'un mot, le salon de l'agriculture se tiendra bien cette année du 26 février au 6 mars, avec passe vaccinal obligatoire et un nouveau système de ventilation pour garantir une sécurité sanitaire la plus grande possible. 4 soldats français de la force Barkhane ont été blessés au Burkina Faso. Leur véhicule a été emporté par l'explosion d'une mine artisanale. L'un des militaires est plus grièvement touché.
Une pause dans un instant, cette escroquerie absolument colossale. Un pharmacien parisien est en prison. Il est soupçonné d'avoir volé 18 millions, vous avez bien entendu, 18 millions à la Sécu en mentant sur ses ventes de tests Covid. A tout de suite sur RTL.
RTL Matin.
RTL, 8h11, la suite du journal d'Olivier Bois avec ce pharmacien parisien en prison depuis la mi-décembre.
Oui, il est accusé d'avoir volé 18 millions d'euros à la Sécurité sociale. C'est le Canard enchaîné qui révèle l'affaire de cette énorme arnaque aux tests anti-Covid, Thomas Proutot.
Oui, l'homme est soupçonné d'avoir facturé à tour de bras des tests fictifs à la Sécurité sociale dans son réseau de pharmacies parisiennes, et notamment des millions de tests antigéniques prétendument fournis à des médecins généralistes. Ces tests sont en effet donnés gratuitement aux professionnels de santé. Les pharmacies en demandent ensuite le remboursement à la caisse d'assurance maladie. L'escroc présumé aurait profité du système pour déclarer près de 18 millions d'euros de tests jamais acheté, jamais fourni, mais pourtant remboursé. Et cela en utilisant frauduleusement l'identité et le numéro d'inscription à l'ordre d'une série de médecins. Il est également soupçonné d'avoir gonflé ses chiffres de tests antigéniques réalisés sur des particuliers. Selon le Canard enchaîné, la PJ parisienne a saisi 800 000 euros en liquide lors de son interpellation le 17 décembre dernier. Mais l'enquête n'en est qu'à ses débuts. Une autre pharmacie parisienne est dans le collimateur pour une escroquerie similaire à hauteur de 4 millions d'euros.
Merci Thomas Proutot, chef du service police-justice d'RTL. Il a fêté avant-hier ses 77 ans à la prison de la Santé. Claude Guéant va demander aujourd'hui sa remise en liberté sous contrôle judiciaire. Depuis 5 semaines, il est incarcéré pour ne pas avoir réglé les amendes auxquelles il avait été condamné dans l'affaire dite des primes du ministère de l'Intérieur. Il a depuis fait un chèque de 292 000 euros pour se mettre en règle.
Emmanuel Macron lui est attendu à Strasbourg cet après-midi.
Il va prononcer un discours important devant le Parlement européen pour lancer en quelque sorte la présidence française de l'Union, Bénédicte Tassard.
20 minutes de discours pour porter les priorités des 27 pays, oui, mais aussi pour convaincre les Français que l'Europe n'est pas déconnectée de leur vie quotidienne. 20 minutes pour prouver que tout est mêlé, le national et l'Europe. 20 minutes pour porter un projet européen sans évoquer la présidentielle française. Un discours d'équilibriste dans lequel Emmanuel Macron insistera sur la fin de l'Europe naïve, celle qui s'est trop laissée faire sur le plan géopolitique, avec par exemple l'affaire des sous-marins qui devaient être vendus à l'Australie, avec encore les négociations sur l'Ukraine, entre les États-Unis et la Russie, mais sans l'Europe. Et puis le président affichera les textes qui pourraient être approuvés dans les semaines à venir pour un salaire minimum décent dans chacun des 27 pays, pour une taxe carbone aux frontières ou encore pour une lutte plus efficace contre les migrants clandestins. Moins d'institutionnel, plus de concret, promet l'Élysée.
Merci Bénédicte Tassard, chef du service étranger. Et justement, l'Europe dans notre quotidien, l'Europe concrète, je vous invite à aller écouter Focus, le podcast passionnant de la rédaction d'RTL, présenté par Marion Calais, à retrouver sur le site et l'application numérique d'RTL.
Emmanuel Macron qui a été furieux de la séquence Ibiza de Jean-Michel Blanquer.
Oui, le ministre de l'Éducation a été obligé de se défendre. Il a regretté d'avoir choisi Ibiza pour l'image de fête que la ville renvoie. On apprend ce matin que le directeur de cabinet du Premier ministre lui avait déconseillé de s'y rendre. Et le président, effectivement, a été très fâché que cette polémique vienne parasiter justement la semaine européenne dont on vient de parler. On en parlait hier dans ce journal, la très grande crainte des compagnies aériennes américaines sur l'arrivée de la 5G aujourd'hui, qui risquait selon elle de clouer des milliers d'avions au sol en brouillant certaines ondes. Joe Biden s'en est mêlé. Les opérateurs téléphoniques ont accepté pour le moment de décaler le déploiement autour de certains aéroports, mais pas tous. Résultat, Emirates et Japan Airlines ont annulé leur vol aujourd'hui en attendant de voir comment cela se déroule.
Allez, on termine avec le portrait de cette Lyonnaise qui a gagné le titre de femme la plus forte de France.
Oui, elle tire, je vous le disais, des poids lourds, oui, des camions à la force de son corps, pas besoin de carburant en l'occurrence. Les images sont impressionnantes. Jennifer Poyer a 33
incroyable
ans. Elle vit à côté de Lyon, elle est auxiliaire de vie la nuit. Et le jour, eh bien, elle s'entraîne. Et Peggy Liodono l'a rencontrée justement en plein effort.
Il vous reste 2 minutes. Allez, 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 accélère, Jeanne, allez, allez.
Poussée par les encouragements, Jennifer s'entraîne sans relâche. Ce soir-là, elle est en pleine séance de crossfit. Mais depuis un an, elle alterne avec un autre sport, le strong.
Le strongman, le but, c'est de porter lourd, de soulever lourd.
Soulever lourd est devenu son gros point fort. C'est ce qui l'a motivée d'ailleurs à participer au championnat de France de strongwoman. Entendez par là la femme la plus forte de France. Au fil des étapes, Jennifer a dû soulever des poids de plus en plus lourds, de la boule d'Atlas de 60 kilos à l'épreuve mythique du tiré de camion.
Le camion est derrière nous, on est sanglé au camion et le but c'est de tirer le camion devant, entre 15 et 20 mètres. Le plus dur c'est juste de le faire bouger. Une fois qu'on est lancé, on s'arrête pas. On regarde par terre et on fonce jusqu'au bout.
Sa motivation et sa persévérance lui ont permis de gagner le titre 2021, une victoire assez inattendue.
Je m'imaginais pas du tout faire ça, moi. Déjà le crossfit c'est déjà pour moi bien assez lourd. Je ne m'imaginais pas du tout soulever 100 kilos, par exemple, pour soulever de terre. Là, maintenant, je les ai dépassés. Donc non, oui, je suis fier et j'espère continuer quelques années.
Grande sportive et compétitrice à la fois, Jennifer compte bien remettre son titre en jeu en fin d'année et même aller se confronter à d'autres championnes lors de compétitions européennes.
Merci, merci Peggy Liodono. On suivra évidemment les prouesses de la femme la plus forte de France. Et vous retrouvez ce portrait en image tout à l'heure dans le 12-45 d'M6.
Bah écoutez, moi le crossfit et le strong, j'en ai jamais fait, mais ça se voit.
Vous vous y mettez, non?
Je ne sais pas.
Bon, commencez par une petite voiture, Yves, à ce moment-là.
Vous avez raison.
Alors, à l'Open d'Australie maintenant de tennis, qualification de Raphaël Nadal pour le troisième tour en 3-7. Chez les femmes, qualification de la numéro 1 mondiale, Ashleigh Barty, en 52 minutes, expéditive. Gaël Monfils est au programme du jour à 11h face à Bublik. Et Benoît Paire affronte Dimitrov. Un dernier mot de football, 3 matchs en retard de Ligue 1 ce soir à 19h. Clermont-Strasbourg, Montpellier 3 et Lille-Lorient. À Lille d'ailleurs, où Atem Ben Arfa devrait signer aujourd'hui. Il s'entraîne en tout cas déjà dans le Nord. L'attaquant était sans club depuis l'été dernier et son départ de Bordeaux.
C'était le journal d'Olivier Bois. On vous retrouve à 8h30 et à 9h.
À
tout à l'heure. Dans un instant, on retrouve Cyprien Sini pour son surf de l'info. Cyprien, vous surfez vous aussi avec les carburants?
Oui, des conseils pour économiser, bon, sans tirer la voiture avec les mains.
Ça va carburer.
RTL Matin,
le surf de l'info.
Cyprien Sini.
Il est 8h20, Cyprien, vous surfez vous aussi ce matin avec les carburants.
Et oui, pour cette matinale spéciale prix de l'essence, vous avez eu dans la brigade les bons conseils de Christophe Bourreau tout à l'heure, notre spécialiste auto. Et bien nous aussi, au surf de l'info, on a cherché des bons conseils. Allez, en voiture. Non, ça démarre pas. Allez, on recommence, en voiture.
Ça, c'est une pondeuse.
Ah, c'est Fuego. Non, c'est une Fuego.
Ah bon.
C'est pas grave, on prend la trottinette, on y va. Chères auditrices, chers auditeurs, chères conductrices, conducteurs, voici les bons plans du surf de l'info pour utiliser moins de carburant. Car nous, on est comme Bruno Le Maire.
J'adore la voiture. J'aime conduire, j'adore. La voiture, c'est la liberté.
Ouais, on adore la bagnole. Et donc, premier conseil d'un ami.
N'oublie pas de vider ton coffre. Parce qu'en effet, cela te fait du poids. Et donc, plus à transporter, ton moteur consomme plus.
Évidemment, c'est vrai qu'on se balade trop souvent dans notre quotidien, le coffre plein à ras-bord pour aller à la boulangerie ou au boulot. Autre astuce de qualité, elle nous vient de Guy Roux, hein, qui en connaît un rayon en termes d'économie.
Oh bah oui.
Vous savez, l'ancien entraîneur d'Auxerre, connu pour sa radinerie, qui nous livre une astuce bien de chez lui.
En scooter, toutes les grandes descentes, je les faisais moteur éteint. Ah ouais. Et après, avec ma 4 chevaux aussi, c'est vrai.
Et hop, on éteint le moteur dans les descentes. Et alors là, c'est sûr que...
Consomme zéro. Zéro. Chaque mètre parcouru est un mètre gratuit. Donc pensez-y.
Ouais, alors après, niveau sécurité, je suis pas certain que ça soit homologué comme technique. On recommande pas. D'ailleurs, pour économiser, faut surtout changer ses habitudes. Genre ça. Ah ça, on le voit trop souvent. Ça.
Les gens qui sont au feu rouge et qui mettent des coups d'embrayage comme ça. Sachez que ça, déjà, vous consommez à mort. Et en plus de ça, vous déglinguez votre embrayage.
Et surtout, bizarrement, ça va pas faire passer le feu au vert plus vite.
Non.
Donc ça ne sert à rien. Autre conseil toujours utile à rappeler, avec cette mode qui revient à chaque fois que le prix de l'essence augmente.
Ces derniers temps, de plus en plus de Français utilisent ce genre d'application à la recherche de l'essence la moins chère.
Bon, bah alors une fois que vous avez trouvé la station la moins chère, si ça vous fait faire un détour de 25 km pour y aller, c'est pas la peine, ça sera pas rentable.
Non,
autre astuce qui revient souvent, rétrograder plutôt que de freiner. Ouais, enfin, n'oubliez pas de freiner de temps en temps quand même. Hein. Enfin, après toute une nuit de recherche, on a certainement trouvé le meilleur truc pour économiser du carburant. Accrochez-vous bien.
Depuis plusieurs années, on essaie de trouver des solutions pour consommer le moins possible de carburant. Il y a la marche à pied, il y a les vélos.
Et là, c'est du 100% d'efficacité garantie, le surf de l'info. Mais bon, on va quand même aller écouter la brigade de notre spécialiste Christophe Bourreau, histoire d'être sûr.
Merci Cyprien, à ce soir pour votre émission quotidienne. On défait le monde dès 18h40.
18h40, 19h, l'info autrement à ce soir.
Avec Julien Cellier.
RTL Matin,
le choix d'Yves Calvi.
Il est 8h22, vous l'avez compris, c'est la suite de notre matinale spéciale, record des prix des carburants. Jusqu'où la facture va-t-elle monter? Et nous allons en débattre avec nos invités. Bonjour Alexandra Legendre.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole de la Ligue de défense des conducteurs. Je salue aussi Mathieu Orphelin, député écologiste du Maine-et-Loire.
Bonjour à vous.
Merci d'être avec nous. La hausse est vertigineuse depuis le début de l'année, plus de 24%, nous l'expliquons à nos auditeurs depuis ce matin. Le sans-plomb 95 passe au-dessus d'1,70€, le diesel à plus d'1,60€, tous les records sont battus. Alexandra Legendre, on imagine qu'en cette période où tout augmente, c'est un sacré coup porté au portefeuille des automobilistes. Dans quel état d'esprit sont-ils et est-ce qu'ils ont un peu d'espoir en ce début d'année? Ou est-ce qu'on est embarqué dans un truc qui nous dépasse?
Alors, automobiliste et espoir, ça n'est plus vraiment synonyme dans la mesure où, entre les taxes et puis l'anti-automobilisme rampant de la société aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué d'assumer d'avoir besoin de sa voiture tous les matins. Donc vous avez maintenant les taxes qui viennent en plus sur les carburants, puisqu'on sait très bien que la majeure partie du prix d'un litre d'essence ou de gazole est faite de taxes. Donc aujourd'hui, c'est bien le baril du Brent, le baril du brut qui augmente. Mais donc paradoxalement, la part des taxes, elle est inférieure sur un litre de carburant. Mais au total, ça donne effectivement une augmentation du prix et une augmentation des taxes pour l'État. Donc aujourd'hui, le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces taxes ?
Mathieu Orphelin, en préparant cette émission, je me suis demandé si ces tarifs qui montent n'étaient pas une bonne nouvelle pour vous.
Non, ce n'est pas une bonne nouvelle. Je l'ai vu encore ces derniers jours sur le terrain en Anjou. Les gens qui habitent à 40-50 km d'Angers, qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas aujourd'hui se passer de la voiture. Donc aujourd'hui, il faut que l'État les accompagne mieux et plus. Il y a beaucoup de choses à faire pour réduire la facture à la pompe à essence. Je donne un exemple parmi d'autres, une mesure qu'on porte, un prêt à taux zéro financé par l'État, garanti par l'État, offert aux gens pour acheter un véhicule électrique. Parce que quand vous avez 50 km à faire pour aller travailler, 100 km par jour, ça vous coûterait 2-3 euros en électricité. En essence ou en gazole, c'est 15 ou 20 euros par jour. Donc vous voyez qu'il faut que l'État aide les gens à sortir de la voiture diesel, de la voiture essence.
Alors je vois que vous démarrez de façon pondérée. Est-ce que ça veut dire que vous avez sur le terrain pris le pouls d'un agacement et d'une fatigue tout simplement des automobilistes et d'une certaine façon, est-ce que vous ne redoutez pas une situation de colère comparable à celle des gilets jaunes vu l'envolée auquel on a le droit et qui sera durable, on sait que ce sera durable.
Sûr. Moi j'ai toujours été modéré. 6 mois avant la crise des gilets jaunes, dans le village de Châteauneuf-sur-Sarthe, il y a un habitant qui me dit « Monsieur Orphelin, se déplacer dans nos territoires ruraux devient un luxe ». Et là, j'alerte Macron, Philippe, je leur dis « il y a quelque chose ». C'était 6 mois avant les gilets jaunes, je n'ai pas prévu les gilets jaunes, mais voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est donner des solutions aux gens, des solutions, des transports alternatifs, des véhicules moins polluants et moins consommateurs, et donc qui vont payer moins d'argent à la pompe, et puis des alternatives à la voiture.
Alors, se déplacer devient un luxe, vient de nous dire Mathieu Orphelin. Alexandra Legendre, il vous suggère de circuler en voiture électrique. Qu'est-ce que vous répondez ?
Alors, moi, il se trouve que, du coup, on parle à 1% de la population aujourd'hui, puisque les 99% restants des 38 millions de véhicules qui circulent en France ont besoin de carburant, d'essence ou de gazole. Donc, le prêt à taux zéro aujourd'hui, c'est une réponse peut-être pour demain, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est bel et bien aujourd'hui que le carburant monte et que son tarif monte. Donc, je me suis amusée à un petit calcul en fait si on imaginait 5 centimes de moins aujourd'hui de taxes au prix à la pompe, oui. Ça voudrait dire sur un an 2,5 milliards en moins dans les caisses de l'État. Très clairement, l'État n'a pas les moyens de se passer des taxes sur les carburants. La taxe sur la consommation automobile aujourd'hui, c'est 86 milliards d'euros de recettes nettes fiscales dans les caisses de l'État. La moitié, ce sont les carburants. Donc de toute façon, l'État a besoin des taxes sur les carburants pour s'autofinancer. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est effectivement aider tout de suite maintenant les automobilistes, et c'est pas avec un prêt à taux zéro qui de toute façon va concerner une voiture électrique qui reste chère. Je rappelle que les voitures d'occasion, il y en a à peu près 60% qui sont vendues à moins de 3000 euros parce que les voitures d'occasion, elles ont 10-11 ans dans la majorité des cas. Donc c'est à ces gens-là qu'il faut parler aujourd'hui.
Mathieu Orphelin.
Non, je crois que le problème de ce que vous défendez, c'est que vous maintenez les gens dans le système actuel. Je suis pas du tout d'accord avec vous quand vous dites que la voiture électrique, c'est que pour les ménages aisés, etc. Non, l'éco-prêt à taux zéro dont je vous parle, justement, il est pour les ménages précaires. Justement, il est pour les classes moyennes. C'est eux qui auront le plus d'intérêt à aller vers un véhicule électrique, qui n'est pas la solution miracle. Hein, mais je pense que c'est ce qui différencie nos approches. Vous êtes vraiment dans un modèle qui ne libère pas les gens de la voiture électrique, de la voiture de la voiture diesel ou de la voiture essence. Donc il y a cet éco-prêt.
Et parce que c'est la photographie du pays, Mathieu Orphelin, objectivement.
C'est exactement ça, c'est une photographie. Eh bien moi, quand quelqu'un me dit je fais 50 km à l'essence pour aller travailler avec ma vieille voiture diesel de 10 ans, je lui dis changez de véhicule, vous allez gagner 100 ou 150 euros
sauf
par an.
Sauf qu'il n'aura pas les moyens de l'acheter.
C'est j'avais poussé les primes pour le changement de véhicule jusqu'à 4000 euros et il manque aujourd'hui une case pour que les gens puissent changer de véhicule.
Peut-on dire concrètement aux Français, quand on voit les prix à la pompe, aller passer à l'éthanol, au GPL, à l'électrique, j'ai envie de vous dire, bien sûr c'est un projet, mais c'est un projet qui n'a pas d'immédiateté dans la vie quotidienne, dans le travail, dans les enfants qu'on doit emmener à l'école, enfin bref.
Il y a une autre réponse qui est qu'on peut faire tout de suite, ce qu'on avait proposé, que Emmanuel Macron n'a pas voulu faire, c'est quand le baril de pétrole est haut, on déclenche une aide crise énergétique, comme en ce moment. Il l'a fait une fois à 100 euros, l'indemnité inflation, mais il faudrait le faire à chaque fois que le baril de pétrole est haut.
Un dernier mot, Alexandra Legendre, avant de nous séparer.
L'électrique, ce n'est pas l'unique solution. C'est, la solution, c'est l'usage. C'est ce dont vous avez besoin. Et le bon véhicule pour vous, c'est celui qui va correspondre à votre usage. Et parfois, il peut être thermique.
Merci beaucoup. En tout cas, l'un et l'autre, d'avoir débattu sur l'antenne d'RTL. Dans un instant, ce qu'il faut retenir dans l'actualité, un point météo à 7 jours avec Louis Baudin. Et puis notre grand rendez-vous France 2022. L'Europe est-elle une chance ou un boulet pour notre pays ?
RTL Matin, Yves Calvi.
L'essentiel de l'actualité en trois titres ce matin à 8h30.
Emmanuel, vous, Olivier, oui, Emmanuel Macron prononcera cet après-midi un discours de 20 minutes devant les eurodéputés du Parlement de Strasbourg pour lancer la présidence française de l'Union. Il y aura ensuite un échange avec les députés. Le directeur de cabinet du Premier ministre avait déconseillé à Jean-Michel Blanquer de se rendre à Ibiza pour ses vacances. Le ministre de l'Éducation a dû s'expliquer. Il a fait un petit mea culpa sur le choix justement de cette île des Baléares, symbole de fête, tout en affirmant que ça ne l'avait pas empêché de travailler. Et puis un pharmacien parisien sous les verrues roux depuis la mi-décembre, accusé d'avoir volé 18 millions d'euros à la sécurité sociale. Il aurait facturé à tour de bras des tests anti-Covid jamais commandés.
Bon, sous les verrues, ça serait un autre problème. Mais ça,
vous l'avez noté.
Nous l'aborderons une autre fois.
Bien,
allez, je vous retrouve à 9h avec grand plaisir. À tout à l'heure, Olivier Bois. Allez, cette météo à 7 jours. Alors,
oui, alors il va y avoir un petit changement temporaire. Ça se complique, oui, exactement. Voilà. Parce que l'anticyclone qui est là depuis des jours et des jours, et qui va d'ailleurs revenir encore pour des jours et des jours, on va avoir une petite faiblesse au cours de ces prochaines heures. Il va se retirer un peu sur l'Atlantique pour laisser passer une perturbation. Mmh. Alors celle-ci va arriver cet après-midi sur le nord-ouest avec déjà des nuages de la pluie. La nuit prochaine va progresser dans toute la moitié nord avec là aussi un peu plus de nuages, de l'humidité avec un peu de pluie, voire un petit peu de neige en plaine. Et demain, elle arrivera sur les régions de l'est et du sud où là, elle donnera immanquablement de la neige en pleine dans les régions de l'est. Alors pas de grosses quantités, mais on va surveiller effectivement ces sols qui vont blanchir en montagne. Ben là, à coup sûr, on aura de la neige sur les Alpes, le Jura, les Vosges. Il y en aura aussi sur le Massif central et les Pyrénées, là à partir de 1000 mètres. Donc toutes les régions vont être concernées à un moment ou à un autre. Quelques éclaircies reviendront dans le nord-ouest l'après-midi. Il y a un peu plus de soleil près de la Méditerranée avec l'aide du vent, les températures toujours hivernales. Et puis ensuite, hop, l'anticyclone revient, déjà pour la fin de semaine. Donc sous ces conditions anticycloniques, je vais me répéter, des brumes, des brouillards, et puis l'espoir d'avoir des éclaircies l'après-midi, des gelées le matin et des températures de saison l'après-midi. Et je peux aller comme ça très loin. J'ai bien l'impression que le mois de janvier va se finir sous ces conditions anticycloniques. On y va.
Écoutez,
tout
on va vous suivre en tout cas avec plaisir. Merci. Merci beaucoup Louis Baudin. Nos grands débats de la présidentielle. France 2022. L'Europe est-elle une chance ou un boulet pour la France ? Est-ce qu'elle nous apporte plus qu'elle ne nous coûte ? La France peut-elle exister face à la Chine, aux États-Unis, sans l'Europe ? Eh bien, nous en débattons avec les spécialistes de la rédaction dans un tout petit instant. Musique.
RTL Matin jusqu'à 9h30
avec Yves Calvi.
RTL Matin France 2022.
Il est 8h35, bonne journée à vous tous qui écoutez RTL et bienvenue dans France 2022, votre rendez-vous avec les experts de la rédaction d'RTL à l'occasion du grand discours d'Emmanuel Macron devant le Parlement européen tout à l'heure, en fin de matinée. On se demande ce matin si l'Europe est une chance ou un boulet pour la France. Avec nous, pour en discuter, Isabelle Choquet, Bénédicte Tassard, chef du service étranger d'RTL et spécialiste des questions européennes, elle est en direct de Strasbourg où le président Macron s'exprimera ce matin. Et puis François Langlais, notre spécialiste économie. Bonjour à tous les trois. Isabelle, je commence avec vous.
Bonjour.
Quand on lit les enquêtes d'opinion, on a l'impression que la relation entre les Français et l'Europe, c'est un peu je t'aime, moi non plus.
Oui.
Expliquez-nous.
Bah oui, on le voit dans un sondage Elab qui est paru récemment dans les Échos. Un tiers des Français pensent toujours que l'Europe, c'est plutôt des inconvénients. Un quart pense au contraire que ce sont les avantages qui l'emportent et les autres sont partagés. Alors les Français comprennent bien qu'on est plus fort à plusieurs. Ils soutiennent d'ailleurs les propositions que la France va porter là dans les 6 mois qui viennent. Par exemple, la création d'un salaire minimum commun. Mais globalement, ils ne voient pas l'impact de l'Europe dans leur quotidien. On parlait hier des symboles en politique qui font mal. Et ben, on a gardé cette idée que Bruxelles, c'est un peu cette entité lunaire qui réglemente la courbure de la banane. Ça n'existe plus, mais c'est une image assez collante.
Vous qui suivez tout cela, Bénédicte, pour nous, est-ce que c'est si compliqué que ça, l'Europe ?
La courbure de la banane, c'était Boris Johnson, hein, on le rappelle.
Oui.
On voit de qui ça vient. Bon, alors, faut pas exagérer, hein, ça arrive. Regardez cette commissaire européenne qui voulait qu'on parle des fêtes de fin d'année à la place des fêtes de Noël.
Oui.
Bon, elle a été vite recadrée. Mais l'essentiel des règles, des lois, ça vient quand même de nos politiques. Et à 27, c'est vrai que c'est pas facile. Et puis après, il y a l'application de cette politique, le parcours administratif. Je vais vous donner un exemple.
Oui.
À 7, voilà, ça se passe sur 7. Il y a une loi sur le bien-être animal. On a construit un parking à 7 pour que les camions qui transportent les vaches, les veaux, puissent faire une pause, désaltérer les animaux, avant que ces derniers ne soient embarqués sur les bateaux, dans le port. Eh bien, les camions ne s'arrêtent pas sur ce parking. Pourquoi ? Parce que le parking, construit avec des fonds européens, eh bien ce parking, il est payant.
Bon, bah écoutez,
voilà,
on a bien compris. L'Europe, ça paraît loin, c'est la technocratie, ça ne répond pas à nos préoccupations au quotidien. C'est ce qu'on entend de plus en plus souvent, François Langlais. Est-ce que c'est juste ou pas ?
Pas plus que pour les fonctionnaires nationaux.
Oui.
Parce que c'est vrai que, justement, les dimensions des cages à poules, pour les paysans qui élèvent des poules, et qui sont fabriquées par Paris, elles sont aussi tout absurdes. On a vu des exemples avec les protocoles sanitaires qui sont très difficiles à mettre en place en France. C'est les fonctionnaires français qui les inventent. Donc, je ne ferai pas de reproche particulier de ce point de vue. En revanche, il y a d'autres domaines où c'est effectivement plus problématique. Par exemple, l'organisation des marchés, de la concurrence, une certaine naïveté vis-à-vis de la Chine, par exemple. Ça, c'est problématique.
Il y a cette idée que l'Europe, ça nous coûte plus que ça ne nous rapporte. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'on peut faire établir les comptes, Isabelle Choquet ?
Alors, sur un plan strictement comptable, oui, c'est vrai. En 2020, la France a mis plus de 25 milliards d'euros dans le budget de l'Union et elle n'en a reçu que 15. Mais bon, on n'est pas les seuls hein, dans ce cas-là. C'est pareil pour l'Allemagne, pour l'Italie, le Danemark, les Pays-Bas. C'est ce qu'on appelle les pays contributeurs.
Oui.
Maintenant, il faut voir aussi ce qu'on en retire et qui ne se mesure pas. Par exemple, quand l'Europe donne de l'argent à la Pologne pour des grands travaux d'infrastructure et que la Pologne fait appel à une grande entreprise française pour les réaliser, ben ça profite à la France à la fin.
Bien sûr.
Et on va préciser aussi que la France est quand même le deuxième bénéficiaire des fonds européens derrière la Pologne, justement.
Alors, je me tourne à nouveau vers vous, Bénédicte. Le fait de poser la question « l'Europe est-elle une chance ou un boulet ?» Est-ce que c'est très français de l'exprimer ainsi ?
Oui, c'est très très français. Oui, oui. Les Français, ils ont la mémoire courte. Hein. Ils oublient que sans l'Union européenne, pour aller en Belgique, avant, on devait montrer ses papiers. Vous savez, dans un douanier abrité dans une petite cahute sur l'autoroute, que sans l'Europe, on devrait payer des droits de douane en achetant des chaussures sur un site internet italien, par exemple. Avec l'Europe, quand on boit de l'eau du robinet pendant les vacances, quand vous allez au Portugal, eh ben, vous êtes sûr que les normes d'hygiène, elles sont les mêmes que chez nous. Ça, ce sont des avantages, il ne faut pas les oublier.
François Langlais, on est injuste ou pas ?
On oublie. On oublie par exemple que le principal dividende, c'est la paix. On s'en fiche parce que ça fait 80 ans qu'il n'y a pas eu de guerre. Mais regardez ce qui se passe en Asie, les relations entre la Chine et le Japon, 80 ans après la guerre, qui sont pleins d'animosité l'un contre l'autre. Chez nous, ce n'est pas le cas. On connaît les Allemands, on travaille avec eux de très près, ça c'est précieux. L'autre élément...
Mais enfin, on s'engueule avec les Hongrois, les Polonais, c'est pas tendre non plus. Hein.
Mais quand même dans un cadre qui reste relativement stable, on ne va pas envoyer des troupes,
mais
si vous
voulez. Est-ce qu'on peut continuer à dire à la jeunesse française, regardez, c'est formidable, il n'y a pas eu de guerre depuis 80 ans.
Oui,
c'est ce que disait Michel Rocard, on l'écoutait, enfin, je suis désolé. Mais avec beaucoup d'attention, mais j'ai envie de vous dire, ça ne suffit plus.
Ça ne suffit pas, et ça n'y a d'ailleurs pas que ça. Regardez, on a... quand on a un problème commun et qu'on arrive à le mettre en commun, la gestion des vaccins, ça marche. Hein. Et c'était une innovation, puisque jusqu'ici, l'Europe ne s'occupait pas de politique de la santé, mais ça a été précieux et ça a contribué à notre santé.
Ce que vous disiez, c'est quand même très très français, effectivement. Alors, cette façon de voir les choses, parce que les Français, on le voit, sont moins attachés à l'Europe que leurs voisins. Quand on demande est-ce que vous êtes fiers d'être européen, les Allemands sont plus fiers que nous, les Italiens aussi. Pourtant, les Italiens, ils ont quand même aussi une image forte et une culture forte. Mais voilà, on ne se sent pas tant européen et en tout cas pas fier d'être européen.
François Langlais,
il y a un autre élément qui est important. La solidarité européenne, il faut quand même la provoquer. Hein. Regardez l'affaire AUKUS avec les sous-marins qu'on a failli vendre aux Australiens. Emmanuel Macron a bien dû remobiliser les troupes européennes derrière lui pour faire front face aux Américains.
Et en quoi on a fait front ?
Eh ben on a fait front pour leur montrer qu'on était tous ensemble, que les Allemands, les Danois devaient être derrière les Français. Et là, Emmanuel Macron, il a fait le tour des capitales pour leur dire « Mettez-vous avec moi, il faut qu'on leur montre une Europe de la défense, il faut qu'on la crée. »
Je vois un François Langlais.
Ça va être d'ailleurs un des thèmes des 6 prochains mois.
Je vois un François Langlais sceptique.
Allez-y, François.
Enfin, mais j'entends tout à fait ce que dit Bénédicte. J'ai eu l'impression que la France ne réagissait guère et qu'au fond, on s'était fait un peu claquer le beignet sans parvenir à organiser une défense européenne parce que c'est compliqué et que les intérêts sont divergents. Sur le fond, l'un des autres bénéfices de l'Europe, qui est relativement transparent, mais à mon avis très précieux, c'est le fait de pouvoir se comparer en permanence. Vous savez, c'est ce qu'on dit, le benchmark. Sur tous les problèmes communs que nous avons avec les autres, on voit comment ils font. Et quelquefois, on récupère leurs bonnes idées. Un exemple, le chômage partiel. C'était une idée allemande. Au moment de la crise de 2008-2009, elle a été extrêmement précieuse pour la gestion du Covid. Et ça a été d'ailleurs salué par le prix Nobel d'économie Krugman. On en parlait hier à ce micro.
Alors, j'ai beaucoup de questions à vous poser. Le temps file très vite. En tout cas, il y a quelque chose qui marque les eurosceptiques. Le boulet, pour eux, c'est l'euro. C'est clair, Isabelle Choquet.
Ah oui, c'est un argument qui revient souvent. D'abord, symboliquement, là encore, hein, on n'a plus notre propre monnaie. Ça sonne comme une perte de souveraineté. C'est dur à avaler pour certains. Et puis, très concrètement, on entend souvent avec l'euro, tout a augmenté. Et ça, eh ben ça, c'est pas vrai. Alors, c'est vrai que les prix ont augmenté, 1,3% par an en moyenne, mais il faut se souvenir que jusque dans les années 80, c'était 10% par an. Et sur les 15 années avant l'euro, on était à 2,1. Donc en vrai, la hausse des prix a plutôt ralenti. Ce qui fausse, en fait, notre perception, c'est que pour les produits courants, on se souvient encore des prix en francs. On se dit, ah, la baguette, c'était 4,40 francs, 66 centimes. Mais la baguette en francs, elle aurait augmenté tout pareil, un peu plus même.
Bon, c'est vrai que je dois dire que je...
Vous le faites aussi,
il m'arrive de le faire, j'ai un peu honte. En même temps, soyons clairs, la France peut-elle exister sans l'Europe face aux États-Unis, à la Chine, à la Russie? Bénédicte.
Ben, quand on est ensemble, on est plus fort. C'est bien simple. On peut construire peut-être enfin un avion pour nos armées. On peut acheter ensemble les vaccins, on l'a dit, en négociant les prix. Vous savez que AstraZeneca a proposé son vaccin à Djibouti 7 fois plus cher que pour nous. Donc, vous voyez, c'est difficile de négocier tout seul. Un pays tout seul, c'est difficile face à ces gros labos pharmaceutiques, par exemple.
Qu'est-ce qui manque à notre Europe pour la faire avancer aujourd'hui, en quelques mots, François Langlais?
Justement, le coup d'après, c'est l'Europe face à la Chine, l'Europe face à la Russie. On en est loin, hein, parce que autant ce que disait Bénédicte à l'instant est vrai, sur des questions concrètes, on arrive à se mettre d'accord, mais la vision du monde et la façon de s'organiser, justement, pour faire pièce à ces grands blocs qui se constituent, c'est l'œuvre d'une génération.
Merci à vous trois. France 2022 est à retrouver en podcast sur l'application RTL. François Langlais, j'en profite pour annoncer à nos auditeurs qu'on vous retrouve aussi ce soir à 20h avec Flavie Flamand.
Sur un sujet voisin.
Oui, vous parlerez du Brexit dans son émission J. Merci beaucoup à tous les trois. Dans un instant, Laurent Gérard et ensuite Cyril Lignac.
Calvi, RTL Matin.
Bonjour Laurent Gérard.
Bonjour Yves.
Bonjour Mademoiselle Jade.
Bonjour Monsieur Calvi.
Salut pocheur.
Bonjour Didier Raoult. Je rappelle qu'en plus d'être le sosie officiel de Patrick Sébastien, vous êtes le plus célèbre épidémiologiste marseillais.
Oh putain, tu parles bien pour une pitchounette.
Merci.
C'est pas comme ma fille qui fait rien qu'à me chercher des poudres à la tête, comme on dit chez moi sur la canne de bière, à me chercher des noyaux dans les olives.
Alors en effet, votre fille, elle aussi médecin, mais contrairement à vous, très pro-vaccin, a porté plainte pour injure publique contre votre plus proche collaborateur.
Tu sais ce que je veux dire, la pitchounette? Tout coucou et mi fiotte. C'est du latin. On est obligé de savoir le parler quand on est comme moi, un grand professeur de médecine, parce que tous les noms de médicaments, ils sont rédigés en latin. Tiens, par exemple, hydroxyus chloroquinus.
Oui.
C'est du latin. Tu sais ce que ça veut dire en français nouveau?
Ah ben non.
Ça veut dire jouvence de l'abbé souris. C'est bon pour tout, pour le Covid, pour le transit intestinal, et même contre les coropiers.
Oui, d'accord. Bon, alors revenons plutôt à votre fille.
Ma pitchounette, je lui ai dit, pourquoi que mi fiotte? Parce qu'elle m'a planté un pic à brochette dans le dos. Tu te rends compte, ma propre fille? Mais je n'en veux pas. C'est pas de sa faute, la pauvrette.
Mais de qui est-ce la faute alors?
Des Illuminati.
Ah ouais, voilà.
Comme ils savent que je dérange. Oui. Ils m'ont enlevé dans la soucoupe volante d'Elon Musk. Ils m'ont amené sur leur planète et leur chef Bill Gates, il lui a injecté le poison Moderna, qui, en plus de lui faire capter la 5G, même si elle n'a pas pris d'abonnement, il lui fait dire n'importe quoi sur son père.
Non mais vous êtes sûr de ça, Didier Raoult?
Mais bien sûr, c'est Francis Lalanne qui me l'a dit à l'occasion du dernier voyage des Bogdanov.
Ah, vous parlez de leur enterrement?
Non, peu cher. Ils sont pas morts. Eux aussi, ils ont été enlevés par les Illuminati. Et je veux te dire un truc, les Illuminati, c'est que de l'amour.
Pour qui votent les jeunes des quartiers sensibles à bientôt 3 mois du premier tour des élections présidentielles? Posons la question à l'un de leurs représentants. Bonjour, M. Bata.
Oh, bonjour, Madame RTL. Bon, moi, c'est simple. Ce que je veux, c'est un président qui me ressemble. Un président auquel que je peux m'identificationner.
Ah d'accord. Et quel candidat emporte vos faveurs?
Pour les jeunes des cités, le boss du game, c'est Zemmour. Le mec, il fait des doigts d'honneur. Mais j'aime bien aussi Macron, depuis qu'il a dit qu'il emmerde les non-vaccinés. Il parle comme nous quand on dit qu'on emmerde la police.
Alors, si vous en emmerdez, comme vous dites, la police, j'imagine que vous ne voterez pas pour Valérie Pécresse qui veut ressortir le Karcher du garage.
Wow, Skip Pécresse, c'est la bourgeoise qui parle comme Valérie Le Mercier dans Les Visiteurs.
Elle-même.
Oh non, elle est trop nulle. Par contre, j'aime bien son parti, les Républicains. C'est comme à la Tessie. Ils sont tous sous bracelet électronique. Franchement, si c'était présenté, moi j'aurais voté Patrick Balkanik.
Non, Balkany.
Ouais, t'es sûr? Parce que le mec avec son bracelet, il arrête pas de sonner. Il balkanique la police, il balkanique la justice, il balkanique tout le monde.
Certes, c'est marrant. J'étais persuadée que vous votiez à gauche. Christiane Taubira, par exemple.
Ma parole, mais t'écoutes pas ce que je te dis. Je vais voter pour quelqu'un qui parle comme moi. Et Taubira, quand elle parle, elle fait des vieux poèmes tout pourris, qu'on n'y comprend rien, comme les poèmes à Rambo et Verveine.
Non, c'est Rimbaud et Verlaine. Hein.
Oh, c'est pareil.
Bon. Et Philippe Poutou, il vous attire pas?
Vas-y, va, m'insulte pas, madame RTL. J'ai une réputation dans la cité. Si je vote pour un mec qui s'appelle Poutou, je vais passer pour un LGBT.
J'avais pas vu ça comme ça.
Et voilà, vous voyez, on est là pour vous éclairer.
Oui, absolument. Claudie.
Impossible d'y échapper, l'année 2022 sera l'année Molière, née en 1622. Pour évoquer cette immense dramaturge, nous recevons évidemment notre acteur le plus qualifié, Fabrice Luchini. Bonjour Fabrice.
Bonjour Jean-Baptiste Poquelin. Qu'à Molière, si tu préfères, a dit, c'est dans le dépit amoureux, acte 2, scène 2. On ne meurt qu'une fois et c'est pour si longtemps. On ne meurt qu'une fois et c'est pour si longtemps. Là, tu vois la Jade, ça fait 349 ans qu'il nous a quittés, le Poquelin, mais il est encore là. Bon alors, je sais, tu vas me dire que Molière, ça te rappelle les sorties scolaires un peu chiantes au théâtre municipal de Jarnac, organisées par ta prof de français.
C'est vrai.
Avec les acteurs qui en font des caisses, habillés en jeans dans les fourberies de Scapin et qui postillonnent sur les premiers rangs.
Voilà.
Eh bien, peut-être que ça te rappelle ton club théâtre où tu jouais Madame Jourdain dans Le Bourgeois Gentilhomme.
Ah non, moi c'était plutôt Agnès dans L'École des femmes. Le petit chat est mort, etc. Mais c'est vrai que ce sont de très vieux souvenirs, tout ça.
Oui, mais tu vois la Jade, même si ça te fait penser au passé, Molière avec sa galerie de types Zarbi, ses personnages un peu secoués, il est d'une confondante modernité, comme ils disent tous. Oui. Tu connais la chanson des journaleux. Il est né il y a 400 ans, mais il n'a jamais été aussi contemporain. C'est beau, hein, c'est des journalistes.
Oui, c'est beau.
Tiens, prends le malade imaginaire. Ça crève les yeux que le docteur Diafoirus, c'est Véran. Sganarel dans Don Juan, c'est Castex. Tartuffe, Macron. Et Mac Delon dans Les Précieuses Ridicules, c'est Taubira.
Ah, c'est vrai que c'est troublant, toutes ces correspondances. Je suppose qu'enfin, les traits comme vous est plutôt content de cette année Molière qui démarre. Les commémorations vont se multiplier. Ah,
voilà. Philippe Muret a dit... Il commémore pour ne pas se souvenir. Il remplace les événements par de l'événementiel et la culture par du culturel. Eh ben tu vois la Jade, cette année c'est Molière et Proust qui s'y collent. Personne va les lire mais on va en causer. Et tu vas voir qu'en 2023, ils vont nous faire commémorer les 10 ans de l'iPhone.
Christiane Taubira est donc candidate à l'élection présidentielle.
Peut-être.
Oui, peut-être. Bonjour François Hollande.
Bonjour.
Vous croyez aux chances de Christiane Taubira?
Oui. N'oublie pas qu'elle fut ma ministre et qu'avec elle, j'ai fait la plus grande réforme de toute l'histoire de la gauche.
Mais laquelle? Parce que je croyais que la plus grande réforme de la gauche, c'était les congés payés de Léon Blum ou l'abrogation de la peine de mort par François Mitterrand.
Non! La plus grande réforme de la gauche, c'est la possibilité que nous avons offerte au moustachu de la fanfare de se faire des mimis devant monsieur le maire.
Vous voulez parler du mariage pour tous? Vous savez que c'est...
Les moustaches de la fanfare. Mais c'est pas possible.
Non. Vous savez que c'est aussi valable pour les dames?
Oui, bien sûr. Dans vos peaux. Bien sûr. Ne faut pas oublier les dames qui portent des sacoches et écoutent Catherine Lara.
Oui.
Elles aussi peuvent se faire des bécots grâce à nous et avoir la joie de divorcer après s'être mariées.
Bon, il n'est pas sûr que le souvenir du mariage pour tous défendu à l'époque par Christiane Taubira suffise à la faire élire. Hein.
C'est sur les grandes sur les grandes victoires d'hier que l'on forge les succès de demain.
Oui.
J'en suis le parfait exemple. J'ai été élu en 2012 et... Ah oui, non, ça c'est un mauvais exemple.
Eh oui. En effet.
Qu'importe, je me souviens de cette manifestation en faveur du mariage pour tous, durant laquelle j'ai compris que Christiane allait marcher sur mes traces avec les moustachus de la fanfare. C'était au printemps républicain.
Oui.
Alors malgré
T'es 3%. Accroche-toi, Cricri, accroche-toi. Voilà ce que je lui ai dit après l'annonce de sa candidature.
C'est beau.
Tu sais. Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur le pavé un peu comme celui-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans les rêves des socialistes. Là-bas, on l'appelle printemps républicain. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à rien. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a 9 ans, il y a un siècle, une éternité. Taubira, où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on gagnera encore lorsque le PS sera mort. Toute la vie sera pareille à nos gadins, aux couleurs du printemps républicain.
Voilà. Vous l'aurez dans la tête toute la journée.
Je ne sais pas d'ailleurs si je dois vous remercier. Ah là là, bah alors écoutez, merci à toute l'équipe pour ce moment de qualité exceptionnelle.
C'est un peu
et on remercie la fanfare.
La moustache de la fanfare, bien entendu. Je ne vais pas pouvoir m'en remettre, c'est terrible. Bon, alors, on vous retrouve demain matin et d'ici là sur le site RTL.fr. Puis oui. Monsieur Lignac arrive dans un instant.
Ah, très bien.
Qu'est-ce qu'il nous fait?
Oh, je ne sais plus. On va voir ça avec lui. Mais de toute façon, il n'est pas moustachu, donc le problème est réglé. Merci infiniment.
Aïe, aïe, aïe.
RTL Matin, Yves Calvi.
Bienvenue à vous, cher Cyril Lignac.
Bonjour.
Monique nous écrit, j'ai la chance d'aller dans une ferme et d'y acheter du lait entier de vache. Je fais beaucoup de laitage, des raies au lait, des œufs au lait, des perles de Japon, etc. Je le fais bouillir pour pouvoir le boire au naturel. Après refroidissement, il se forme en surface une couche épaisse, la peau de lait. Je fais des petits gâteaux avec. Que faire d'autre avec cette délicieuse peau de lait, vous demande-t-elle? Alors, c'est incroyable.
Mais c'est marrant parce que c'est vraiment... moi, je suis né à la campagne.
Oui, et alors?
Et donc, c'est exactement ça. C'est-à-dire, quand on fait bouillir le
lait... Votre maman faisait ça?
Alors, non, mais ma grand-mère, oui.
Ah oui.
Et donc, on avait la peau de lait au-dessus. Oui. Et donc, soit les enfants adorent, soit ils aiment pas.
Moi, ça m'a vomi. Enfin, je trouvais ça épouvantable.
Et ouais, donc, soit la peau de lait, on met un petit peu de fleur d'oranger, de sucre, on la mélange et on la mange comme ça. Soit sinon, on la met dans le... On fait un petit 4 quarts.
Ah oui, tiens.
Et donc, cette matière grasse va remplacer le beurre, en fait. Et donc, on fait 3 œufs avec 120 grammes de sucre, on blanchit. La peau de 2 litres de lait que l'on prend et qui réduit, donc sans trop la mélanger, on ajoute à ça, à la place du beurre, en fait, cette crème-là, ça nous donne ce remplacement de beurre. Et on met après 150 grammes de farine, 5 grammes de levure chimique.
D'accord.
On mélange tout ça avec notre peau de lait. Oui. Et ensuite, on cuit 45 minutes à 160 degrés. Ça va nous faire comme un 4 quarts.
Mais la peau de lait, excusez-moi, elle s'intègre vraiment
comme
du beurre ?
Elle s'intègre exactement, parce qu'en fait, elle fige. Et ensuite, on la mélange. C'est en fait comme quand on a le... Quand on baratte le beurre, en fait.
Oui.
C'est, mais ça, c'est vraiment...
Je vais scandaliser. Alors, Monique. Parce que
moi, Monique, j'adore, mais ça, c'est vraiment la campagne. Hein. Oui. Là,
mais elle traîne bien.
Là, c'est vraiment comme chez moi, dans l'Aveyron. On a la traite, on a le lait, on fait le beurre, elle, c'est génial.
Elle vous l'a dit, elle a la chance d'aller chercher son lait dans une ferme. Et c'est formidable. Alors, bon, dites donc, si je lui disais ce que je fais, moi, dès que je vois la peau, je te la balance directement dans l'évier, c'est un scandale.
Bon. Alors que c'est vraiment de la matière grasse qu'on peut garder, qui remplace le beurre.
Et ben voilà. Et vous nous avez donné une excellente recette. Merci Cyril Lignac. Rendez-vous sur RTL.fr pour vous demander conseil.
RTL.
Il est 9h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Ce qu'il faut retenir de l'actualité ce matin avec vous, Olivier Bois.
RTL est à vos côtés à la pompe à essence aujourd'hui. Matinale spéciale sur ces prix records des carburants. 1,62€ le diesel, c'est du jamais vu. Ça va continuer avec de nouveaux records annoncés pour le prix du baril. Du coup, conseil très pratique ce matin pour limiter sa consommation, vérifier la pression des pneus. Et ce conseil assez inattendu que vous nous donnez, Christophe Bourreau.
Si vous pouvez, faites le plein le matin. Il faut savoir que toutes les stations ont leur réservoir enfoui dans le sol et la terre étant plus froide le matin, donc il y a une densité qui est plus grande. Et quand vous remplissez un litre, c'est vraiment un litre. Alors qu'en journée, c'est pas tout à fait un litre. Et puis aussi, avec le pistolet, allez sur la version lente. Vous avez version lente, moyenne ou rapide. Parce que là aussi, il y aura beaucoup moins d'évaporation.
Merci beaucoup pour ce conseil très pratique, Christophe Bourreau. Emmanuel Macron prononcera cet après-midi un discours de 20 minutes devant les eurodéputés du Parlement de Strasbourg pour lancer la présidence française de l'Union. Il y aura ensuite un échange avec les députés. Yannick Jadot notamment prendra la parole, lui qui est aussi candidat à Europe Écologie Les Verts à la présidentielle. Le directeur de cabinet de Jean Castex avait déconseillé à Jean-Michel Blanquer d'aller à Ibiza. Le ministre de l'Éducation nationale est venu faire un petit mea culpa hier soir aux 20h de TF1. Il reconnaît que le choix de cette île des Baléares, symbole de fête, n'était pas le bon, mais il affirme qu'il a fait son travail tout à fait normalement. 4 soldats de la force Barkhane ont été blessés au Burkina Faso. Leur véhicule a été touché par l'explosion d'une mine artisanale. L'un des militaires est plus grièvement touché. Il a fêté ses 77 ans à la prison de la Santé avant-hier. Claude Guéant va demander aujourd'hui sa remise en liberté sous contrôle judiciaire. Depuis 5 semaines, il est incarcéré pour ne pas avoir réglé les amendes auxquelles il avait été condamné dans l'affaire dite des primes du ministère de l'Intérieur. Il a depuis fait un chèque de 292 000 euros. Et puis à l'Open d'Australie cette nuit, qualification de Rafael Nadal pour le troisième tour, de la numéro 1 mondiale également chez les femmes, Ashleigh Barty. Gaël Monfils et Benoît Paire sont au programme du jour.
Merci beaucoup Olivier Bois.